J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanterie.
Mes souliers, mon vélo.
En Arthur, on ne pense que ça, la police, il y a les examens et tout, pour tout le suite, tu vois.
Ça se présente plutôt bien, finalement.
Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. Une queue chanteuse.
Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blanc.
C'est la viande Barbie.
Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux.
Le garçon m'encule. Je suis projeté en dehors du lit.
En 3 secondes, j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule.
Je sais, j'ai mis beaucoup de temps à sortir cet épisode, je sais. Il devait sortir le 27 mai, on est le 7 juin. Il a mis beaucoup de temps à sortir, désolé, cet épisode avec Lucas Drapier. C'était un plaisir. Là, vous voyez, pour vous dire, je l'enregistre, enfin je le monte dans un McDo à La Roche-sur-Yon. C'est n'importe quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai adoré parler avec Lucas Drapier. Voilà, c'était un plaisir. J'ai vraiment envie de vous faire commencer par la meilleure phrase de tout le podcast. Je vous laisse écouter ça.
Alors, le cul, le bondage, ok.
Mais la mort, non.
C'est fou. Vraiment, et je dis là, genre, waouh. Et en plus, on voyait tellement bien le public. Et tu sais, on fait ce truc de connard, au lieu de se focus sur les gens qui sont là et qui rigolent, tu vois que les gens pas contents, tu vois. Mmh. Du coup, je faisais que de les regarder. Et j'étais là, ah. Et à un certain moment, j'ai parlé de chat, juste après, où les enfants, ils ont rigolé, les parents aussi, là, ça a redétendu tout le monde, tu vois. Il a fallu que je fasse un truc très mignon. Alors, quelle taille tu veux?
Très bien, parfait.
Tu lis Harry Potter?
Oui.
Tu veux quelle maison?
On va prendre de... Cédric Diggory, il est Cerdex, je crois, non?
Pouf-souffle.
Pouf-souffle, parce qu'il y a le pouf-souffle.
C'est que j'ai dans la main, parfait.
C'est pouf-souffle. Parce que c'est trop sur côté, Gryffondor, on est d'accord?
Ouais, de ouf. Et le pouf-souffle, pour moi, c'est la meilleure maison. Après, moi, je suis pas pouf-souffle, parce que j'ai fait les tests et je suis Serpentard.
Ouais, mais il y a plein de gens qui sont graffiers de Serpentard. Hein.
Bah, on peut, hein. Mais il y a des gens chambés chez Serpentard. Après, le problème, c'est que la majorité des fils d'up.
Sont là-bas.
Ils sont là-bas, donc c'est problématique, mais. Et tu prends le sucre ou pas?
Ouais.
Ok.
Tu t'en mets une pierre. Super. Merci beaucoup.
Mais clairement, pour souffle, meilleure maison.
Merci beaucoup.
Et du coup, si t'en veux, après, n'hésite pas, parce que.
Ok, bah, j'en reprendrai sûrement de toute façon. Je suis un très grand amateur de café, en plus quand c'est du bon café comme ça.
Là, pour te dire, j'écris quoi? Là, c'est Kenya.
Kenya.
Voilà, le grand fruit d'Arabica.
En plus, quand c'est fait par les enfants, c'est tout le temps meilleur.
Avant, ce qui était stylé, c'est quand j'étais avec mon ex qui est colombienne. Mmh. Elle partait en Colombie et tout, elle me ramenait du café de là-bas.
C'est ton ex du coup maintenant?
Hein?
C'est ton ex?
Une colombienne, oui, mais c'était il y a longtemps. Hein.
D'accord.
Là, je suis toujours.
Ah oui, avec toujours avec celle de la dernière fois, oui.
Ouais, ouais, chez qui je vais. Que je vais rejoindre à Marseille d'ailleurs.
Ah d'accord, donc. Ah oui, donc.
Je vais pas vivre avec elle, mais de suite parce
qu'on. On peut en faire un autre cache ou pas? Parce que du coup, je l'ai allumé là.
Ouais, vas-y, okay.
Ouais.
Je suis.
Ah!
T'as surprise! Non! Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a aucun souci sur ça. On fait une transition smooth, tu vois. Du coup, je prends mon appart là-bas, mm-hmm. que j'ai trouvé et tout, et qui va être très mignon. Mais voilà, quoi, je vais la rejoindre là-bas, et plus la famille, plus ses amis, tout le monde, quoi.
D'accord, mais parce que. Attends, je voulais savoir une chose. Mm. Toi, à la base, tu viens de Marseille, c'est ça?
D'Aix-en-Provence.
D'Aix-en-Provence. Mm. Ça yes. vient de préciser
que. Est-ce que c'est juste à côté? Et pour le coup. Ils s'aiment pas les deux.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup de trucs sur ça.
Tu viens d'Aix-en-Provence. Mm. Mais du coup, là, tu vas retourner là-bas. On est à Paris là. Et tu vas retourner là-bas.
Ouais, mais à Marseille coup, là pour le coup.
Ta copine, tu l'as rencontrée ici?
Alors, on s'est rencontrés sur une application qui maintenant est plus trop utilisée, je crois, qui s'appelle Clubhouse.
D'accord.
Je sais pas si t'avais suivi ça.
Pas du tout.
En fait, ça a surtout cartonné pendant le confinement.
D'accord.
Parce que c'était pour le coup. Enfin, c'est une super application, mais quand les gens reprennent leur vie normale, les gens ne voient plus l'intérêt d'être dessus. En gros, c'est une application où les gens créent des espaces de discussion, mais c'est uniquement vocal, tu vois.
Et les gens, ils s'en servaient pour créer presque des émissions, tu sais, un peu comme des podcasts, mais live, tu vois. Avec, en gros, quand t'as la personne qui organise le salon, donc tu crées un salon de discussion, tu l'appelles comme tu veux. Donc des fois, ça peut être des sujets très clairs et on sait de quoi on va parler à l'intérieur, tu vois. Alors ça, là, typiquement, une fois où j'étais repassé dessus juste pour voir ce qu'il y avait, il y avait par exemple un sujet, c'était guerre en Ukraine, tu vois, parlons-en, c'était le lendemain des premières attaques et tout.
Okay.
Donc c'était un peu pour parler de tout ça. T'as des rooms dans tout, ça, on appelle ça des rooms, t'en as dans toutes les langues. Donc tu peux aller sur des trucs anglais si ça t'intéresse, etc. Et voilà, c'est assez cool. Et l'idée, c'est que quand tu organises, tu peux...
Mais ça s'appelle Skyblog, hein, c'est... Non. Ça ressemble beaucoup à Skyblog.
Ah, t'avais pas de l'oral à Skyblog.
Hein ?
T'avais pas de l'oral à Skyblog. C'était que de l'écrit.
Ouais, bah oui. Ah, c'est... Attends, en oral. D'accord, ok, attends, j'ai compris.
Tout est oral, t'as pas, de, pas d'écrit du tout. Non, c'est que vocal. C'est vrai que je dis c'est comme des podcasts ou des émissions de radio. Et en fait, le truc fun... Donc bon, la personne qui organise, elle peut inviter des gens à venir on stage, comme on dit, pour parler avec, tu vois. Et donc, les gens qui sont, par exemple, en public, peuvent lever la main. Donc, vraiment, tu vois une main qui s'affiche pour dire « Moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de participer. » Et les modérateurs disent « Vas-y, monte, tu vois. » Ils peuvent te couper le micro si tu fais trop de bruit, tu sais, en même temps. Parce que des fois, les gens participaient, ils oublient de couper leur micro et t'entendais genre les enfants, la rue, machin, c'était chiant. Donc, les modérateurs peuvent bouger tout ça. Et après, te remettre dans le public si tu as déjà parlé, dis ce que tu avais à dire, etc.
Okay.
Et en fait, les gens y allaient, ça c'était assez cool, mais un peu comme à l'époque des radios libres, tu vois. Donc c'était vraiment, en fait, tu switches de room en room, les intervenants s'en foutent en fait de voir que les gens partent ou reviennent ou quoi, tu vois. Et toi, juste, tu cherches l'émission qui t'intéresse le plus. Comme la radio, tu vois, où tu switches les stations et voilà. Et tous les midis, on avait un rendez-vous régulier avec des personnes qui sont devenues des potes, qui avaient créé une room sur la musique, ça s'appelait le son du jour, et les gens venaient proposer des musiques qu'ils kiffaient sur le thème, tu vois, de la semaine. Et après, on faisait des playlists collaboratives, du coup. Où les gens, on mettait tous leurs sons qu'ils avaient proposés, et après, on passait même les extraits, tu vois, de musique, histoire que tout le monde voit ce que c'est et tout, et qu'on disait « Ah ouais, c'est cool, ça rappelle des souvenirs, etc. etc. » Et faire découvrir des trucs. Et donc moi je suis venu en auditeur régulier, après j'ai participé, j'ai animé, j'ai modéré et tout. Et du coup ma copine Mariama, pareil quoi, elle venait dessus et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après on s'est mis à discuter, machin, on s'est rendu compte qu'on était à la même fac quasiment en même temps et qu'on s'est jamais croisés, on
n'aurait
pu, des trucs comme ça. Et puis on a sympathisé et puis on est tombé amoureux quoi, la vie.
Elle est de là-bas ça,
Elle est à Marseille, ouais.
Elle est à Marseille, d'accord, ok. Parce qu'en fait moi je me suis dit, oui du coup, là tu parles, du coup c'est... Un des trucs en plus pour retourner à Marseille ou tu
comptais de faire déjà de base? Déjà de base j'avais envie de partir depuis longtemps.
T'aimes pas trop Paris?
J'aime pas Paris, globalement. Okay. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais... En fait, j'arrive pas à le vivre au quotidien, tu vois, cette ville. Moi, ça fait... pour le coup, ça va faire 10 ans que je suis là, tu vois. En septembre, ça aurait fait 10 ans, tu vois, okay. Si j'étais resté. Que je suis ici. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être en Erasmus, tu vois, ici. Genre vraiment... À tout moment, je dois repartir, tu vois, et j'attends. Seulement, ça dure parce que, tu vois, t'as un truc qui te retient, que ce soit du boulot, des stages, des formations, des copines, potentiellement, des trucs artistiques aussi. J'ai fait 5 ans de théâtre d'impro, et pour le coup, ça me plaisait trop. J'ai envie de rester là, tu vois, et de monter en niveau aussi. Après, j'ai donné des cours, du coup, je trouvais ça cool de rester, tu vois, etc. Et puis ensuite, l'implication dans le stand-up. Qu'avec j'étais là, pour le coup, j'étais vraiment content de vivre ça parce que c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais petit, sans appeler ça le stand-up, tu vois, mais je voulais faire ça. Et du coup, j'ai passé trop bien, je vis ça. En plus, je commençais à rencontrer, tu vois, des gens que j'admirais, tu sais, avant, c'était fou. Mais là, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, ras-le-bol, quoi, trop envie d'entrer. Entre le confinement, le Covid, tous ces trucs chiants, je me disais, vas-y, je suis tout seul chez moi, tu vois, je suis tout seul à Paris, tous mes potes redescendent les uns après les autres, ma famille elle est aussi dans le sud, tu vois, ça commence un peu à me gonfler, quoi. Un peu envie de rentrer. Et là, c'est un truc, là, c'est intéressant, je pense, pour parler, c'est très bizarre à dire, parce que c'est pas du tout pour faire le côté trop artiste ou pompeux ou quoi, mais je pense qu'on peut être plusieurs à se poser des questions sur ça, mais... parce qu'il y a un gars hier à un plateau, un spectateur qui m'en a parlé de ça et tout, du fait de percer, tu vois. Et je m'étais dit en fait, tu vois, alors si je reste à Paris alors que je suis pas heureux, juste pour le stand-up, pour soi-disant espérer percer, parce que soi-disant c'est forcément ici qu'il faut le faire, et que ça n'arrive jamais, ben, je serais forcément du coup un vieux aigri, tu vois, à la fin. Genre juste qui regarde le passé en disant j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, nanana. Et du coup, j'ai pas envie d'être ça, tu vois. Et du coup, je pars du principe que de toute façon, ça c'est normal que percer, c'est pas possible. Je pense que c'est mieux pour le vivre, tu vois, détente, parce que sinon t'es aigri si ça arrive pas. C'est du bonus si ça arrive, mais là tout ce qui compte c'est s'amuser, essayer de faire notre art, potentiellement en vivre, tu vois, et voilà. Mais il faut pas s'empêcher de vivre des trucs à côté.
D'accord, okay,
ouais, du coup, je me dis, bah, là j'ai envie de kiffer, ma meuf est là-bas, j'ai envie de m'investir, d'être avec elle, d'être au soleil, de voir ma famille et mes potes et tout, donc je fais ça, et je continue le stand-up quoi qu'il arrive, mais je pense que je serais plus heureux comme ça, tu vois. Quitte à devoir remonter à Paris plus tard pour je sais pas si j'ai un spectacle et que je peux le jouer tu vois une fois par semaine à Paris ben je ferai des allers-retours tu vois y a pas de souci mais rester à Paris pour rester à Paris tu vois je pense que c'était pas la bonne solution pour moi du tout quoi.
Ok je comprends et j'aime bien cette vision de pas chacun la sienne mais de ça arrive ça m'aide percé c'était sûr de pas être écrit tu vois moi j'ai plus ce truc où bon je sais pas si t'es écouté totalement celui avec Gwen Thiem tu vois où on parle
pas aller jusqu'au bout
mais il y a un moment donné on parle encore. De que de méritocratie tout ça ouais et donc moi je me dis genre juste percer en vrai moi je ouais on parlait plus de vivre de ça moi ouais. C'est le but numéro un
ouais
après percer si tu dis que ça peut arriver dans 40 ans genre t'es détente tu
dis ouais, c'est bon
le temps. Tu le sais. Mais c'est bien de se dire, ça arrivera jamais, et comme ça, quand ça arrive, t'es surpris.
Ouais, moi, je pense que en vivre, c'est faisable.
Ouais, je pense que c'est bien sûr.
Et c'est comme très souvent, tu vois, c'est comme les gens dont on parle jamais, alors que c'est la majorité d'un métier. Tu vois, c'est comme, c'est très con, hein, mais c'est comme, t'as des footballeurs, t'as aussi les acteurs, t'en as plein, tu connais pas leur nom, tu sais rien de leur vie. Et les gars, ils sont professionnels et ils vivent de ça, tu vois. Le nombre d'acteurs qui font des pièces en permanence et qui font des tournées en permanence et qui ont un salaire juste qui leur permet de vivre, tu vois. Mais au moins, ils vivent de leur art et ils sont heureux et de leur passion, mais on les connaît pas, tu vois, c'est pas grave. Et ça, c'est l'essentiel qu'on peut essayer de viser, tu vois, comme, comme objectif. Je pense que ça, pour le coup, c'est faisable. Après, le fait de percer et devenir ouais, une méga rosta qui se prend même plus la tête de remplir des salles parce que les gens veulent y aller, tu vois, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont fans. Ça, pour moi, je pourrais penser que ça arrivera pas.
Et puis, c'est un peu dommage. Ouais, enfin, comme tu le dis là, de remplir des salles et que les gens viennent, tu vois, genre, c'est cool que les gens viennent parce qu'ils savent que ton travail a été travaillé.
Oui, là, je l'ai dit de manière sale, tu vois, mais en effet. Parce que là, c'était. Je crois que c'est Charlie qui en parlait de temps en temps et. Et dans humoriste, c'était, je disais que c'était le pire truc d'être connu à un moment donné parce que t'étais moins exigeant avec toi-même parce que t'as plus à l'être, tu vois. Les gens rigolent juste au fait que tu sois là et qu'ils soient contents de te voir, tu vois. C'est gagné, tu vois. T'as même pas à hausser ton niveau ou à réfléchir à ça.
Okay.
Si t'as, en tout cas, potentiellement, tu peux te laisser, je pense, tu peux te laisser piéger, tu vois, par ça. Et au bout d'un moment, si t'es un peu trop, trop laxiste, influençable par la fame et tout, peut-être qu'au bout d'un moment, juste tu te laisses aller par ça, et le fait que les gens soient juste contents de te voir, et du coup tu travailles plus. Après, t'en as qui ont plus conscience, tu vois, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont envie de réaliser artistiquement, et qui comparent par rapport aux autres artistes qui débarquent, est-ce que leur niveau est meilleur, comment j'ai envie de hausser mon niveau de jeu, quoi. T'en as qui se posent ces questions-là, et qui du coup vont pas se laisser avoir par ça, et vont continuer à travailler. Mais non, je voulais juste te dire ça pour le côté, bah en effet, je pense que c'est la phase qui te permet de devenir riche en faisant ce métier-là, et où en effet, les gens, sans forcément être riches, mais en tout cas vont savoir que ça marche tellement bien pour toi, que t'as un gros public derrière, et du coup ils vont être ok pour investir avec toi, et te suivre dans tes idées, même quand elles peuvent paraître potentiellement bancales, tu vois. Alors là, c'est là où je trouve que la vie de Kian, elle peut être chambée, c'est que comme il est très connu et qu'il y a une grosse communauté derrière lui qui le suit et qui le kiffe, et ben il peut proposer plein de projets, tu vois, différents, aussi parce que les précédents ont marché, tu vois, mais il peut quand même proposer des projets, et Canal ou d'autres boîtes peuvent dire... ouais, ok, go, on suit.
Après, ce qui est bien, c'est quand même...
Ça peut être intéressant, tu vois, genre, on va voir.
Les gens, c'est quand même Ken, du coup, c'est pour dire, en général, c'est réfléchi. C'est pas... Genre, mais il y en a qui... Je vois ce que tu veux dire.
Et c'est ce côté-là, tu vois, de les boîtes de prod avant dessus. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir des projets incroyables, mais si ils disent « Ah, mais il n'y a personne derrière toi, on ne te connaît pas trop, en plus, toi, tu n'as pas de budget, du coup, nous, on ne peut même pas venir juste faire, tu vois, un apport supplémentaire et tout machin », ils sont frileux, tu vois, s'ils ne te connaissent pas.
Ouais,
mais s'ils voient qu'il n'y a pas de gens derrière. Après, à l'inverse, tu as des gens qui n'ont pas forcément le niveau pour et... du moins pas encore, et potentiellement pour qui c'est pas forcément fait de faire du stand-up, mais ils se lancent dedans, pourquoi pas, mais qui sont ultra soutenus, juste parce qu'ils ont une communauté de tarés derrière, tu vois.
Ouais.
Et du coup, les gens se disent « Ah, business, tu vois.
»
Et il y a ça qui se fait. C'est l'inverse, qui est pas cool, mais qui existe aussi, tu vois.
Oui, non, mais je vois des gens déjà quand tu me parles, ouais. Je vois.
On sait, les gens.
On sait, on connaît. En tout cas, déjà, je suis super content de faire ce podcast avec toi avant que tu pars. Je pense que je vais sortir, c'est quoi, le jour où tu pars.
Waouh.
En mode lettre d'adieu, tu vois.
Ah, c'est beau.
Lettre d'adieu. Mais je suis grave content de faire ce podcast avec toi parce qu'on ne se connaît pas tant que ça. Mais je sais qu'à chaque fois que je vois tes stories, je kiffe. Je tes stories sur Instagram, vraiment, je kiffe. Mais il a raison. J'aime beaucoup.
Pourquoi? Parce que je mets que des trucs d'anarchiste et que tu
vois aussi, c'est tout. Si là, je fais mais oui, mais c'est fou, c'est trop bien. Mais je veux savoir, est-ce que cette mentalité-là, tu l'as depuis que t'es à Paris ou tu l'avais déjà avant?
Depuis que je suis à Paris?
Ouais. Parce que, pour donner un exemple, moi je sais que j'avais ce côté mec de gauche un peu avant, mais depuis que je suis à Paris, je rencontre beaucoup de personnes. Ouais. Par exemple, tu vois, j'aurais un truc sur lequel j'ai beaucoup évolué. Et j'étais pas, par exemple, transphobe à l'époque, mais genre j'avais des trucs, je connaissais pas grand chose là-dessus,
oui,
j'étais pas là, genre font ce qu'ils veulent et puis c'est tout. Et maintenant, par exemple, le fait qu'il faut dire transgenre, par exemple, je le sais depuis un an, parce que je traîne sur Paris. Ouais. Avant, je le savais pas, tu vois. Et sur Paris, ça m'a beaucoup aidé à ça. Et je veux savoir si toi, c'était pareil ou pas.
Non, pas forcément, mais après, je pense que ça dépend vraiment aussi des endroits où on vit. Et de l'influence culturelle qu'il y a à l'endroit où tu vis, tu vois, de naissance ou quoi. Moi, j'ai des gens de ma famille, tu vois, par exemple, qui viennent d'Orange ou de Caderousse, qui est un petit village à côté. Orange, c'est à côté d'Avignon.
D'accord.
Et c'est pas un bled paumé, mais en même temps, c'est pas là où tu vas avoir le plus de gens progressistes ou qui vont se poser des questions, tu vois, sur justement la société et se remettre en question et être dans la déconstruction et tout. Et donc si tu grandis là-dedans, tu te poses pas ces questions là donc il faut que tu sortes à un endroit où il y a beaucoup plus de réflexion et d'émulsion peut-être intellectuelle pour que tu apprennes ces choses là moi le truc c'est que quand j'étais à Aix, déjà c'est une grosse ville universitaire et bourgeoise et très étudiante, donc t'as un peu ce mix là, tu vois, qui se mélange et qui fait que t'es pas à la ramasse en termes de sujets de société et tout, et tu peux être dans les discussions et dans l'évolution. Après, tu fais t'as ta propre opinion, évidemment, mais en tout cas, on te met au courant de ça, tu vois, quoi qu'il arrive. Et moi, mon entourage proche d'amis est vraiment un entourage d'extrême gauche, tu vois, de base. Moi, la différence, c'est qu'avant, j'étais dans un délire de je veux pas être influencé, donc j'allais parfois à l'encontre de leur opinion, juste par principe de je veux essayer de trouver moi-même ce que je pense, tu vois, sans être influencé. Et de la même manière que ma famille est de droite, et pour le coup, j'essayais d'être pas du tout influencé par eux, et j'essayais de trouver moi-même mon propre chemin et tout. Après, il s'avère qu'en avançant, et là où Paris joue un rôle, mais c'est un peu un rôle, ça aurait pu se faire ailleurs, c'est que je suis rentré dans le monde de l'entreprise, et j'ai vécu des choses affreuses, tu vois, avec du harcèlement moral, etc., etc. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience beaucoup plus de choses, et accentuer des choses que je pensais déjà, tu vois, mais avec des exemples concrets, tu vois, en disant, bah, tu vois, ce que tu pensais déjà, bah, c'est vrai, tu vois, et là, tu le vois, tu le vis, et tout, machin, et ça m'a beaucoup plus poussé vers, une mentalité un peu de révolte, tu vois, et d'anti-capitalisme, parce que je voyais vraiment à quoi ça ressemblait, les grosses entreprises mondialistes et très, très riches de l'intérieur, tu vois, avec tout ce qui peut être négatif à l'intérieur, tout ce qui peut être dégueulasse, tu vois. Alors, tu bosses pour des ordinateurs et on te fait comprendre que tout le monde est au courant que c'est de la merde, mais on les vend quand même, et toi t'es genre tu vois, j'avais envie de me flinguer en permanence, que ce soit directement dans le côté aspect du produit, ou puis même après dans la vie de tous les jours, tu vois. Alors, moi j'ai des problèmes de santé, ma manager, elle m'avait fait comprendre que je faisais semblant d'être malade pour rester en télétravail. Enfin, tu vois, ce genre de délire-là, mmh. j'ai enchaîné des trucs comme ça et tout. Et à chaque fois, c'était une case cochée sur le listing de tout ce qui est horrible dans le libéralisme, tu vois, le capitalisme. Ouais. Ok, donc ça existe aussi. Ok, check, ça check, ça check. Et t'es là, ouais, ok, ça sert à rien. Et après, tout ça m'a permis de travailler encore plus, tu vois, ma déconstruction sur tout de manière globale, qui j'ai envie d'être et tout. Mais c'est pas tant lié à Paris, c'est plus lié à mes expériences personnelles, tu vois.
Ok, d'accord. Ok. Mais t'as fait quoi comme étude, toi, à la base?
Alors, j'ai fait une licence LEA anglais-japonais. Et à cette époque, je voulais créer une marque de fringues. Bosser au Japon aussi beaucoup, ou porter des marques de fringues japonaises comme Yuji Yamamoto, que j'admirais énormément comme designer. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais des stages, et qu'en fait, tous les stages à chaque fois pour des trucs de mode qui pouvaient m'intéresser, c'était genre, c'était à chaque fois ah, vous avez fait LEA, du coup, vous pouvez pas correspondre et tout ça, vous avez fait que des langues, parce que les gens pensent que LEA c'est que des langues, alors que LEA c'est de l'éco, du droit, du management, etc., etc., associé aux langues, tu vois. Okay. Le but c'est de mélanger les langues avec tout le reste. Donc moi je suis alors, ben non, pour le coup, je fais plein d'économies, je connais toutes les théories d'économistes à la con, tu vois, je les connaissais toutes et tout machin. Mais non, à chaque fois c'était genre école de commerce. Ou alors, fac, pourquoi pas, mais licence, c'est trop juste pour nous, j'en préfère genre master 1, master 2. Et je me suis dit, bon, bah apparemment, si je veux faire ce que j'ai envie de faire, je suis obligé de faire une école de commerce. Mmh. Et je tombe une fois sur une ancienne pote et tout, j'avais pas vu depuis longtemps, et elle me disait qu'elle avait fait un concours pour entrer en école de commerce, où t'as pas besoin de faire de prépa, c'est pour les gens justement qui ont une autre vie à côté, et ils peuvent faire un concours, tu vois, parallèle, et tu rentres comme ça, quoi. Du coup, je fais le concours, je fais ça. Et ensuite, boum, école de commerce à Strasbourg.
Ok.
Et entre-temps, je switch parce que, bon, bah, finalement, faire une marque de fringues, je suis plus si chaud. L'idée de faire des stages dans des grosses boîtes qui font travailler des gens à 8000 km ou plus, ça me dégoûte. À ce moment-là, déjà, je suis déjà dans une mentalité, tu vois, où c'est avant mes stages et mes expériences qui me... qui vont me mindfucker, mais j'étais déjà dans une réflexion où... Ça me va pas. Non, là, comment ça fonctionne
Un peu d'éthique.
Ouais, à fond. Déjà, de base, la marque de fringues que je voulais faire, c'était vraiment basé sur le développement durable et l'éthique et tout. Après, il s'avère qu'il y avait de l'appropriation culturelle dans ce que je voulais faire, mais je connaissais pas encore ça.
Ouais.
Donc, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit non, tu vois, genre terminé, jamais de la vie je fais ça. Et, mais en tout cas, j'avais un truc vraiment de je voulais travailler entre. Parce que je voyais qu'en fait, les marques éthiques, développement durable, c'était surtout des choses fabriquées en Amérique latine. Et je lui ai dit, t'as quand même genre des heures d'avion pour transporter tout ça, tu vois. Donc éthique et développement durable, moyen quoi. En plus, éthique, combien tu les payes les gens aussi en Amérique latine, tu vois, il y a ça aussi, j'ai envie de savoir les choses. Et moi, en fait, j'ai vraiment ce côté de la Méditerranée, tu vois, parce que du coup, j'ai le sud de la France et je me sens beaucoup plus proche parfois... Soit de gens du Maghreb ou du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, que des gens du nord de la France, tu vois. Je l'avais vu en arrivant à Strasbourg, tu vois, je me dis, ouais, je me sens... Je les adore, tu vois, mais je sentais qu'il y avait un décalage, tu vois, entre ma manière d'être, de penser et tout, et eux. Alors qu'on est dans le même pays, tu vois, mais c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on est beaucoup plus proche en étant dans la même zone géographique, tu vois, et en partageant des frontières, parfois, qu'en termes de nation, tu vois, globalement.
Je comprends.
Je pense. Et en fait, je me disais, mais la Tunisie a toujours été genre extrêmement forte pour les textiles. L'Égypte, en termes de coton, on sait que voilà, on n'a pas même plus à remettre ça en question. Et je dis, ben autant. Parce qu'en fait, la Tunisie, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, ils faisaient beaucoup de textiles pour l'Europe, par exemple. Et puis, vu que leur salaire augmentait, ça a été délocalisé vers la Turquie. Et ensuite, c'était redélocalisé, parce que pareil, la Turquie, ben, a son niveau de vie qui augmente, etc. etc. Boum, ça redélocalise, mais là, vers les pays asiatiques, tu vois. Un truc classique. Et du coup, je m'étais dit, ben, autant relocaliser chez des gens qui sont beaucoup plus proches et avec lesquels j'ai envie de travailler, tu vois, parce que ben, j'ai envie de créer ce lien, tu vois, méditerranéen et tout. Donc, c'était un peu ça l'idée, tu vois, de... ramener ça, tu vois, en Tunisie et chercher des bonnes matières premières dans les pays qui sont juste à côté et essayer de réduire un maximum tout ce qui est transport de matières premières et réduire le taux carbone, etc., pour fabriquer des choses de qualité et tout. Et finalement, avec tout le délire de « je vais faire des stages par-ci, par-là, il faudra travailler pour des grosses boîtes qui font ça et machin », ça m'a vraiment dégoûté. Et en fait, en école de commerce, ce qui s'est passé, c'est que je connaissais personne en arrivant à Strasbourg. Et je me suis dit « bon, bah, il y a plein d'ateliers et d'associations, je vais m'inscrire à tout, tu vois ». Et du coup, je me suis inscrit à tous les trucs de théâtre possibles. Et en fait, à la fin, je faisais plus d'activités associatives que de cours, tu vois, limite. Mmh. Et après, je me suis dit, ben non, en fait, j'ai envie d'être dans l'entertainment, tu vois, de manière générale. Et du coup, mon Master 2, je l'ai fait en e-marketing parce que mon premier stage, c'était Community Manager chez les cinémas Gaumont-Pathé.
D'accord.
Et là, du coup, le fait de bosser dans le cinéma, tu vois, vraiment... voir les programmations, comment ça se passe, être dans les cinémas aussi pour bosser et tout. J'étais plus dans l'entertainment et ça me plaisait trop, tu vois, de voir ça, c'était cool. C'est hyper long ce que je raconte. Je vais essayer de battre le record, tu vois, du dernier. Désolé.
Bon courage.
Et du coup, après, à la fin, donc ouais, je fais mon Master 2 en alternance chez Hewlett-Packard. Ça se passe pas bien du tout. C'est HP, les ordinateurs.
Ok, d'accord. Ah, d'accord, d'accord, maintenant je sais.
Mais en fait, c'est deux créateurs. En fait, il y a un gars qui s'appelle Hewlett, l'autre Packard. Et c'est le nom du coup de la marque, c'est leur nom à eux qui ont créé ça.
Ok, d'accord.
Et,
moi je connaissais quoi HP du
coup. Bah ouais, normal. Ouais. Et du coup, je travaille chez eux, ça se passe pas bien du tout. Et je fais un énorme burn-out, je pars en arrêt de travail pendant 6 mois, un truc comme ça. Parce que mon médecin, il me dit hors de question que tu retournes là-bas et tout, c'est dead. Et à la fin de ça, en fait, je me rends compte que le social media, ce que je faisais depuis deux expériences pro à ce moment-là, ça me convenait pas, je trouvais ça très flou. Et tu sais, genre, tout basé sur des likes, des retweets, des machins, pour moi c'était méga abstrait, tu vois. Mmh. Genre, pour moi, j'arrivais pas du tout à faire le lien concret, et ça me dérangeait beaucoup sur le fait qu'on ait fait, je sais pas, une pub pour un ordinateur qui marche bien, enfin un tweet qui marche bien sur l'ordinateur. Et le niveau de vente lié à ça, tu vois, alors est-ce que vraiment ça avait un effet tant que ça et tout, trop abstrait, tu vois, ça me saoulait. Et j'avais commencé à faire des cours de dev, donc de code, en Master 2, et du coup ça m'a bien plu, j'ai pensé vraiment très rationnellement, genre, ok, c'est concret, tu vois, le code c'est concret, c'est comme de l'artisanat, tu vois, on te dit, vas-y, j'ai envie que... Sur mon site, il y a un bouton en bas qui soit bleu et quand tu cliques dessus, il devient rouge. Bah, tu le fais, c'est clair, tu vois. Genre, une fois que tu l'as fait, c'est fait, tu vois. On peut pas te dire c'est abstrait, c'est chelou. Mmh. Non, c'est fait. Et si on veut le modifier, bon, on te le dit, tu le modifies, mais c'est très simple. Et du coup, j'ai pensé à ça, j'ai dit ok, ça me convient. Tu peux y mettre une part de créatif si tu as envie en plus dedans, c'est faisable. Ce qui me convenait aussi énormément. Et l'autre truc, c'est que je me suis dit, bah. Il y aura tout le temps du taf, tu vois, en dev. J'ai pensé à ça aussi, tu vois, côté chômage et tout.
C'est important, ouais.
Et je dis, ben, go, on part sur ça. Et là, j'ai enchaîné les formations et le taf est venu après. Voilà pour le parcours. grave long.
Parcours grave long, mais rempli de plein de choses. Mm. Du coup, t'as fini tes études à quel âge?
À la remise du Master 2, c'était. 2015. Ah, dans 2013, je viens, 2013-2014, 2014-2015, ouais, donc 2015, je crois que c'est début 2016 où on m'a remis le... Je crois que c'est avril 2016 où on m'a remis le diplôme. Sept ans en moins, ok, j'avais 27.
27.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais.
Ok, d'accord. Ouais. Là, c'est super, je parle, parcours énorme. Mm. Énorme. Mais, je suis tout seul, mais je vais applaudir. Je vais applaudir pour avoir.
Merci, merci.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais?
Je suis développeur web.
D'accord.
Et dans une boîte d'ingénierie agricole.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'est de faire de mettre des outils en place. Et moi, mon taf, c'est de rendre ça ergonomique et agréable pour les agriculteurs. Mais à la base, c'est leur mettre à disposition des outils pour améliorer leur rendement et leur productivité. Mm. Et rendre leur métier plus facile.
D'accord, ok.
Parce que pour le coup, l'agriculture, c'est un énorme enjeu, mine de rien.
Absolument.
Et là, on le voit avec la guerre en Ukraine, à quel point c'est important d'être indépendant aussi de point de vue agricole. Mais c'est aussi un milieu qui est à la ramasse niveau numérique. alors qu'il y a trop de choses à faire pour les aider, tu vois. Donc voilà, c'est assez intéressant.
Ok, okay. Donc là au niveau éthique on est nickel, au niveau de plus ou moins.
On va dire, ça dire en fait, l'agriculture ça l'est pas forcément, mais dans le taf que je fais...
Tu fais en sorte
que... Non, en fait tu fournis le produit à qui tu veux, donc tu vas avoir des clients qui vont être éthiques et d'autres non, mais le produit que tu fais en soi il est neutre.
Ouais ouais, voilà, ouais, c'est ça, ok. Okay. C'est... Donc ça te plaît?
Ouais, c'est cool. Okay. Bon, après là je me casse, mais...
là tu te casses et tu, là-bas tu vas à Marseille, tu as trouvé quelque chose?
Non, pas encore. Là je suis en rupture conventionnelle et je chercherai après, tu vois, une fois que je serai installé.
Tranquillement, ok.
Mais je pense que ça va le faire. En plus, le truc cool, c'est que maintenant c'est totalement accepté le côté télétravail, surtout chez les développeurs, tu vois, parce qu'on peut vraiment le faire, tu vois, littéralement. Il suffit d'une bonne connexion internet et c'est parti. Et t'as plein de boîtes qui recrutent en ce qu'on dit full remote, donc c'est totalement à distance. Parce qu'en général, t'as des boîtes qui vont dire nous, c'est deux jours. Tu vois,
deux jours d'entreprise et après le reste.
Et après le reste, ou inversement. Mmh. Mais t'as des boîtes qui sont OK pour dire totalement à distance et c'est pas grave si vous êtes à des kilomètres, à des milliers de kilomètres. Là, dans ma boîte, littéralement, mon N+1, il était à Montpellier ou Toulouse, je sais plus, mais il était loin, quoi.
Ok, mais du coup, t'as pas pu rester.
Non, il voulait pas.
Okay.
Enfin, c'était un peu, c'est un peu un délire compliqué, mais entre le directeur actuel, il pouvait pas me dire oui parce qu'ils sont en train de changer de directeur et il voulait que ce soit au prochain directeur de faire ces choix-là, tu vois, déjà de reconstruire son équipe, de choisir un peu ses règles à lui, tu vois, de management, etc., et de comment il veut structurer la boîte. Et du coup, il me dit, je peux pas te dire oui avant qu'il arrive, alors qu'il arrive dans un mois, tu vois. Ça aurait été genre bien longtemps avant qu'ils aient commencé la transition de directeur. Il me dit, là, j'aurais pu, tu vois, te dire oui. Parce que ça a été le cas avec un autre gars. Il y a un autre gars de la boîte, il s'est barré à Rennes. C'était des grosses négociations et tout, mais il a réussi à partir tout en bossant, tu vois, toujours pour la boîte, aucun problème. Mais voilà, si j'avais demandé au même moment, peut-être que ça aurait été accepté, tu vois. Mais là, pour le coup, on était en plein dans un truc administratif compliqué pour eux. Donc, il me dit, je peux pas faire ça.
Okay.
Donc, du coup, à la rupture conventionnelle, go à Marseille et commencer à chercher dans l'été tranquillement, tu vois, tout en profitant de l'été à Marseille, ça me sympa.
J'imagine. Revenons sur le stand-up.
Oui.
Bon, on va pas refaire le podcast que tu as fait avec Georges. D'ailleurs, on peut écouter le podcast concurrent. Non, trop de questions. En vrai, t'as fait un podcast avec Georges.
Ouais, tout à fait.
Où t'as fait écouter la première scène, tu étais dans une école de commerce.
Tout à fait.
C'est ça.
Ouais, à Strasbourg. Ouais.
À Strasbourg, du coup. Tout est lié.
Tout est lié.
Aujourd'hui, du coup, ça fait combien de temps que tu fais le stand-up?
Alors je vais pas dire que j'en fais depuis 2013 parce que ça a pas de sens parce que tu vois, en fait entre 2013 et la dernière scène que j'ai fait d'affilée, il y en a eu 4 en 3 ans, tu vois. Donc c'est à chaque fois c'était pendant l'événement, tu vois, de l'école et point barre. Et après j'ai totalement arrêté. Donc tu vois, je peux pas dire que j'en fais plus de stress, ça n'a aucun sens. L'absence après est tellement longue que c'est comme si je repartais de zéro. Et ça a vraiment été le cas.
Du coup, de manière régulière.
Du coup, c'est vraiment depuis 2019.
2019.
Depuis littéralement l'ouverture du Barbès Comedy Club.
Ok, d'accord. Okay.
Ça fait longtemps que je voulais m'y remettre. Et pour le coup, moi, j'étais quand même dans le milieu artistique parce que du coup, je faisais. Tu vois, j'ai fait de l'impro pendant 5 ans. Je connaissais beaucoup de. Du coup, de mes profs d'impro connaissaient des stand-upers aussi de leur côté, tu vois, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je continuais à écrire, tu vois, tout le temps. Et j'ai dit à un de mes meilleurs potes maintenant, qui est aussi mon metteur en scène et qui était mon prof d'impro à l'époque, j'en parlais, il fait ben arrête de casser les couilles, vas-y quoi, tu vois. Et à un moment, il y a eu un peu une rencontre comme ça, un peu par hasard, sur un stage d'impro qu'on avait fait ensemble, et il y avait PV qui était là. Et PV, du coup, il avait déjà commencé le stand-up et tout, et c'est un super pote de mon super pote. Et du coup, il m'a dit ben. Vas-y, pose-lui les questions, machin, comment on fait, tout ça. Et du coup, on a pas mal discuté, c'était cool. Et quand le Barbès a ouvert, j'ai dit, bah, vas-y, c'est l'occasion, quoi. J'entendais à chaque fois, tu sais, dans les podcasts, que ça allait ouvrir, que Charlie allait mettre le lieu, j'avais trop hâte. Et quand j'ai vu que c'était à côté de la maison, je sais pas, vas-y, let's go. J'étais au chômage à ce moment-là.
J'étais déjà là ?
Ouais.
Ok, d'accord, c'est vraiment côté.
Ouais, ouais, j'habitais là, ça a ouvert. Là, j'ai dit, bah, allez, c'est parti, tu vois. Et là, tous les soirs, j'étais en spectateur. Tous les soirs, tout le temps. Que ce soit pour les open mic ou même les trucs d'après, tu vois, j'y allais tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai demandé à Marwan Sista, qui faisait MC au tout début, et du coup, comment on faisait pour s'inscrire, etc. Et un jour ça m'a pété, tu vois, j'étais alors... Bon allez, ce soir j'y vais, tu vois, alors, parce qu'il faut se jeter à un moment donné, tu vois, c'est pas...
T'avais écrit un truc, t'avais...
En fait, j'ai commencé à écrire des choses et j'étais venu en disant...
T'as pris sur tes anciens trucs?
Pas du tout. Non, même pas, c'était vraiment un truc trop frais, et le pire, c'est que j'ai changé de sujet dans la salle. C'est-à-dire que je vais dire, je vais parler de ça, et au final je fais, non, vas-y, je vais faire une anecdote qui m'est arrivée.
Cette sur scène, t'as fait ça?
Ben, juste avant de jouer, dans la tente, tu vois, en plus, je savais pas quel ordre on avait, tu vois, c'est vraiment au hasard. Et on attendait, parce que c'était pas comme maintenant où les gens sont d'affilée, tu vois, et celui qui est chaud, il y va, tu vois. C'était vraiment Marouane qui disait, et maintenant machin, tu vois, et maintenant machin. Et on était tous assis, tu vois, et on savait pas à quel moment on allait jouer, tu vois.
Ah, ouais, d'accord, j'ai pas vu ce moment-là.
C'était ça au tout début. Et du coup, ben, boum, on y allait. Et là, en fait, avant, tu sais, je sais pas quand est-ce que je vais passer et tout. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, plus je doute, tu vois, sur ce que je vais raconter et tout. Et finalement, je dis, non, vas-y, raconte un truc qui t'est arrivé que tu avais envie de raconter de base un jour et que tu connais par cœur, tu vois. Et j'ai fait ça et les gens ont trop adhéré à ça. C'était vachement cool, c'est trop bien passé, c'était chouette. Et puis depuis, ben, voilà, on continue. On lâche rien, on taffe.
Tu joues ce soir?
Pas du tout. Non, non.
Tu joues quoi la prochaine fois là?
Bah là j'ai pas de créneau. Avant, si je crois que non, j'ai un truc bah si, attends, j'ai vu ça hier dans mon calendrier, j'ai un truc mi-mai et après je sais pas.
D'accord, ok.
Mais avant j'étais programmé tous les dimanches au Barbès, au Best Of, donc je me posais plus la question, tu vois, je savais que tous les dimanches au moins j'avais ça. Et là maintenant il faut que j'aille demander aux gens avant que je parte, en tout cas.
Ouais.
Après
tu pars quelle date exactement?
Si tout va bien, je pars le week-end du 27, mais un truc comme ça.
Ok, ok. Voilà. Okay. Bah, n'hésite pas, si tu veux, une blague. Du coup, le week-end du 27, ça fait le 25.
Ok, écoute, avec plaisir.
Le 25, n'hésite pas, n'hésite pas.
Bah, venez, ah, bah non, blague, ils sauront pas.
Non, je vais sortir pile le 27.
Oh là là, ok, d'accord. Le 27.
Qu'est-ce que vous dire? En plus, on parlait de PV. PV, faut que je l'invite là en plus sur le podcast aussi.
Ah, il est grave cool.
Incroyable, il vient de sortir son spectacle d'ailleurs.
Ouais. Faut que j'aille le voir.
Moi aussi. Partir. Moi aussi, malheureusement, c'est le mercredi, donc le mercredi c'est pas possible.
Ouais. Il a deux trucs.
Ouais, et dimanche. Mmh. Et dimanche, tu sais, une semaine sur deux, je suis au Cassel.
Oui.
Donc voilà.
Ok.
Tant pis. Tant pis. J'ai un jeu dans mon podcast que tu du coup, t'as entendu avec Abouane Sième. Où j'ai une anecdote. Devinez qui me l'a dit.
Ah, t'as trouvé des gens qui t'ont raconté des trucs sur moi.
Ouais.
Alors, il y aura du Georges, évidemment.
Oui.
J'ai décrété que Georges était celui qui connaissait toutes les anecdotes sur tout le monde.
Alors, attends, parce que juste j'en ai reçu un récemment là. Donc, je vais juste écouter. Ah, je baisse, vite fait. Ok. Ok, alors attends. Déjà, on va prendre des anciens, je garde celui-là.
Ok.
Alors, tu t'es ouvert le crâne avec un micro.
Bah, j'étais sûr que ça allait arriver. Je crois que c'est le truc le plus connu me concernant.
Ouais, bah on m'a dit, la personne qui m'a dit ça m'a dit, il va galérer à deviner qui c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont cool.
Ouais. Alors, du coup, je dois deviner d'abord.
Vas-y, devine.
Bon, c'est pas Georges, sinon c'est trop simple.
Non,
c'est pas lui, hein.
C'est comment dire? Allez, c'est une femme déjà pour t'aider. Okay. C'est une femme.
Est-ce que c'est Alice?
Hein?
Alice?
Alice, non, Alice ne m'a pas répondu. Okay. Je tiens à le dire dans le podcast.
Waouh, voilà. Super. Claire Girardi?
Non.
Non plus. Waouh. Ah là, c'est bien plus compliqué. Désolé pour la personne qui pense que je n'ai pas pensé à elle, tu vois.
Directement. Non, mais en plus, elle m'a dit oui, ça va être compliqué parce qu'il y a plein de gens qui l'ont dit.
Ok.
Mais c'est quelqu'un que tu aimes bien, ce que j'ai cru comprendre. Parce que j'ai demandé à Georges à qui je pourrais demander. Et il m'a dit, demande à...
Ok, t'as donné des noms. Mathilde?
Non, Abba? Mais il m'a demandé, j'ai pas réponse à la demander d'ailleurs, tiens.
Ok. Ah, ça a tellement... je trouve ça tellement badant de pas trouver le nom de la personne. Meuf à qui je m'entends bien, qui est au courant de ça. Qui d'autre pourrait savoir?
C'est une personne très souriante, à Destination Designer. Qui est très souriante, qui a tout le temps le sourire.
Ah, c'est ma Marie.
Exactement.
Évidemment. De toute façon, ouais, dans mon entourage, c'est... Oui, bah oui, évidemment. Évidemment.
C'est ma Marie.
Évidemment que c'est ma Marie, ok.
Stop, je vais parler du jeu, elle a rigolé, elle est ah, trop bien et tout. Oh. Du coup, explique-moi, parce qu'après on m'a parlé vite fait d'un bandana, tout ça.
Ouais.
D'où ta photo de profil ou pas?
Ouais, bah non, mais le bandana, j'ai toujours eu... D'accord. Okay. C'est une période où j'en portais beaucoup. Quand j'ai commencé le stand-up, c'était un peu le hasard, tu vois, voilà. Et là, je suis plus en période casquette, mais le bandana va revenir, surtout l'été, j'aime bien. Mais aucun rapport, pour le coup, entre les deux. Okay. C'est juste que... en fait, je faisais un sketch... Et sur les chiens, à l'époque, c'était mon premier un peu sketch vraiment travaillé, que je jouais beaucoup, etc., qui m'avait permis un peu de prendre de l'aisance et tout sur scène. Et j'imaginais... ouais, vas-y, je vais essayer de dire ça, je sais pas si ce sera trop clair, mais... Genre, j'imaginais un moment sur scène, genre, quand tu... quand, tu sais, les maîtres, ils regardent, tu vois, quand le chien, il va faire ses besoins et tout, genre, ils espèrent évidemment qu'il va pas avoir la diarrhée parce que c'est toujours le bordel, tu vois. Mmh. Et qu'il s'avère que c'est ça. Et je faisais le personnage qui voit ça et qui fait putain! Et je me frappais la tête avec le micro pour que ça va genre poum, tu vois. D'accord. J'adorais le son du poum.
D'accord.
Et en fait, ce qui se passait, c'est que de temps en temps, je voyais juste que j'avais des traces viteuf, tu vois.
Ouais.
Genre petit quadrillage du micro quand même, tu vois. Mais comme ça. Et je me disais tiens, mais j'ai des. Et, tu sais, je faisais pas le lien de suite. Je disais, ouais, j'ai un peu des problèmes de peau ou je sais pas quoi. c'était les fois, bah, du coup, oui, si j'avais pas de bandana, ça faisait ça, tu vois, mais je faisais pas lien. Et là, une soirée folle, vraiment, ça n'avait aucun sens. Je vais faire mon premier 10 minutes quelque part.
C'était où on peut savoir l'endroit ou pas?
Alors, on peut, hein, c'est juste que j'ai oublié. Velvet quelque chose.
Le Velvet Bar? Alors, il y a le All Night Long ou le One Shot
au Velvet? Pas du tout, alors.
À Châtelet?
C'est pas ça, non, pas du tout. C'est pas ça. Mais je pensais qu'il y a le mot Velvet dedans, mais... Non, mais en fait, c'est un local un peu particulier, un peu associatif, et genre, en bas, t'as une énorme salle pour faire ce que tu veux, tu vois, donc ils organisent des événements et tout, là, ils faisaient du stand-up pour voir. En même temps, aussi, ils organisent des soirées avec des DJ qui viennent, en même temps, au rez-de-chaussée, t'as un salon de tatouage, tu vois, c'est vraiment un truc tout mélangé, tu vois.
Trop bien.
Donc, on nous avait proposé ça. Et du coup, il y avait moi, Damien Le Cooper, qui maintenant a arrêté le stand-up, et avec qui j'avais commencé à peu près en même temps, au Barbès. PV, me semble-t-il. Mon pote Baptiste De Oliveira, qui du coup, mon metteur en scène aussi, qui avait fait un petit passage, une anecdote que vous voulez raconter. Louis Chappé et Cécile Marx, qui étaient là.
Ok.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré Cécile Marx, d'ailleurs.
Que du beau monde.
Et Louis Chappé, d'ailleurs, on a fait de l'impro ensemble il y a hyper longtemps, avant qu'il fasse du stand-up.
Trop bien.
C'est trop fou de le voir glow up comme ça et tout. Et du coup, on fait ça, ça se passe pas bien de ouf parce que méga stress, premier 10 minutes. En plus, à l'époque, je faisais beaucoup de blabla qui potentiellement faisait réfléchir, mais ça manquait de blagues au milieu, tu vois. Enfin, moi, j'étais un peu dans la quête, tu vois, de tout ça. Et ça se passe pas bien, on a un peu envie de se flinguer avec Damien et tout. Et juste après, on nous ramène en bagnole devant le Barbès. Et en fait, on se dit, tiens, et si on allait voir si l'open mic, tu vois, est toujours ouvert, tu vois, alors s'il y a la deuxième session et s'il y a moyen de s'incruster. Et hop, on y va, il y a encore des places et tout. Et du coup, on y va, on dit, vas-y, on va essayer de rattraper le coup de la soirée qu'on vient de vivre, on va faire un truc plus fun. Je rentre, je fais mon truc et je fais ça. En fait, au moment où je tape avec le micro, et ben en fait, t'as la bordure du micro qui m'ouvre le front.
D'accord.
Vite fait. Et apparemment, pendant que je suis en train de jouer, bah, t'as le trait qui devient rouge et il y a une petite goutte. Et moi je vois pas, tu vois.
Ah oui, c'est ce que j'ai demandé, si tu l'as senti ou quoi.
Moi j'ai l'impression que je juste fais le truc habituel et boum. Et en fait je sors et il y a un gars qui me fait mec, t'es en train de saigner du front, tu vois, je sais quoi. Ils font ouais, mec, tu t'es ouvert le front. Je fais mais non. Et du coup je vais vite au bar, demander s'ils sont pas là, de la glace et tout machin. Et il y a un des gars du Barbès qui possède le bar d'en face, tu vois, qui est souvent là aussi. Et je lui dis, ah, je peux avoir de la glace parce que je me suis ouvert le front avec le micro et tout. Fait, ouais, j'ai vu, hein, t'as tapé fort et tout ça, il me file le truc. Mais ouais, ridicule.
Mais
en plus, j'ai arrêté de le faire parce que.
Une question, ton passage s'est bien passé ou pas?
Au final, ouais, les gens ils ont ri, ils ont kiffé.
Les gens ils ont vu la barre rouge, genre ils ont pas fait attention?
Je crois qu'ils l'ont vu, mais c'était. Je crois que c'est sur la fin du sketch, tu vois, mine de rien. Donc ça se passe, et je pense que le moment où vraiment ça a saigné, c'était en sortant, tu vois. Mais sur le moment, il y a des gens quand même qui l'ont vu. Il y en a que j'ai recroisé plus tard, en public, tu vois, au Barbès et tout, qui m'avaient dit, en discutant avec des autres, qui me présentaient en disant « Ah oui, j'étais là ce jour-là et tout, on avait vu. » Improbable. Vraiment improbable.
Comme quoi, on fait un métier dangereux.
C'est hyper dangereux. On se rend pas compte comme ça.
On se rend pas compte, mais c'est ultra dangereux ce qu'on fait.
Non, mais c'est... Ouais, c'est trop con, mais... Et après, j'ai essayé de trouver des alternatives pour ce sketch en disant « Tiens, je vais pas me frapper le front », mais ça sortait tellement pas naturellement. Alors, quand je faisais ça, c'était hyper naturel. J'avais réussi à trouver un truc qui faisait que ça fonctionnait bien, tu vois. Et j'avais pas trouvé d'alternative que j'arrivais à adopter.
Ici, là, ça allait pas, ça.
Ça me faisait pas rire, ouais. Tu vois. J'avais juste essayé de me taper, tu vois, la main sur la cuisse, tu vois, en disant « Putain !» Mais il y avait moins le côté drôle de tu tapes le front et t'entends poum, tu sais, du micro, tu vois. Mais ça faisait surtout rire beaucoup moi plus que les gens, je pense.
Okay.
Mais mine de rien, ce que je faisais aussi après, ce que j'avais rajouté, c'était avant que ça me fasse mal et que je m'ouvre le front, tu vois. C'était que je faisais poum, je me mettais à parler, après je faisais aïe. Tu vois. Et ça faisait rire les gens, donc c'était un peu un gag que j'avais rajouté, tu vois. Mais ouais. On va éviter de se faire mal, hein.
Bah oui, bon, on va éviter.
C'est con.
Deuxième anecdote.
Ouais.
Tu es mauvais joueur au baby-foot.
Ça, c'est Georges, et c'est hier.
Non.
C'est ah, bah Claire vrai. Alors.
Claire.
Ouais, bah oui, c'est Claire.
Elle m'a dit, c'est tout récent.
C'était hier soir. Non, mais hier soir, improbable, je me retrouve soir avec les stand-uppers et tout. Et en fait, il y avait un baby-foot gratuit, ce qui change, tu vois, des bars. Donc, du coup, on s'est renvoyé.
T'es horrifié ?
Hein ?
C'est pas horrifié ?
Non, j'ai même pas regardé le nom du bar où on était, pour te dire, hein, je sais pas du tout, j'ai juste suivi Tanguy que j'ai croisé, tu vois, par hasard, dans la rue, je rentrais d'un plateau, je l'ai croisé, il me fait ah, « Viens, je vais être des stand-uppers et tout, ramène-toi », et du coup, je suis allé. Ouais, et du coup, on a passé notre soirée à jouer au baby-foot au final. On a un peu discuté avec des gens, et après, baby-foot.
Et t'as perdu, c'est ça
Ouais, plusieurs fois. Et pour le coup, je suis une horreur... Mais c'est en fait, après je redescends, je m'en fous et c'est comme si c'était rien passé. Genre, vu que 2 minutes passent, genre, c'est, si c'est la fin, et eh ben c'est comme si c'était rien passé, tu vois. Je vais pas être vénère, je vais pas tu vois, avoir envie de me venger, je m'en fiche, c'est pas grave. Mais sur le moment, quand je joue, je suis très intense, tu vois. Et pour le coup, on se prenait des buts, j'ai frappé le mur à un moment donné.
Ah oui, carrément.
Qui avait l'air pas trop.
T'arrêtes de te frapper ou frapper des choses parce que ça commence à être régulier, le micro, le mur.
Ouais, faut faire gaffe, hein. Mais ça va, je frappe que des objets.
Oui, c'est plus important quand même.
Ouais, c'est essentiel. Mais non, j'ai vraiment ce réflexe de. Faut que ça sorte, tu vois, faut qu'il y ait un truc qui expulse et avec beaucoup de violence, tu vois, sur le moment. Mais c'est que pour les trucs sportifs, quoi.
Ok.
Ah, c'est. Pour le coup, parce que, le concept de participer, c'est charmé, j'adore ça, il n'y a pas de souci. J'accepte l'idée d'avoir perdu, tu vois, c'est pas grave, une fois que c'est passé. Et sur le moment, c'est tant que c'est pas perdu, tu vois. Genre, et du coup, il faut gagner. Et du coup, le moindre but que je me prends alors que c'est pas terminé, tu vois, bah, je suis genre, je suis vénère. C'est, ouais.
Ok.
Du coup, ouais, j'étais très. Mais là, du coup, qu'elle sache que c'est pas que le baby foot. Hein. On joue à FIFA, c'est pareil. Hein.
En général, d'accord. En général. Bah, du coup, là, je le vois, mais tu es resté un skate pour faire du skate avec ta copine. C'est sûr ?
Ouais. Ok. Ouais. Alors, en fait, c'est hyper marrant parce que le but, c'était pas ça, à la base, de faire du skate ensemble. Mais ça veut dire qu'elle en voulait un et moi aussi, j'en voulais un. Et on faisait nos recherches dans nos coins, tu vois, un petit peu. Et du coup. Ben on s'est dit, ben on ira en faire ensemble, ce sera charmé. Et elle avait testé un skate hyper casse-gueule qui était un surf skate où en gros le truck il pivote.
D'accord.
Tu vois les trucks. Ouais. Et en fait, c'est des trucks particuliers qui font qu'ils pivotent vraiment beaucoup.
D'accord.
Et le but du surf skate, c'est de vraiment te donner l'impression de pouvoir carver, comme on dit, ouais. Mais comme si tu faisais du surf, tu vois, d'accord, pour de vrai. Okay. Et vraiment, il faudra faire des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Et du coup, ça te permet même potentiellement d'avancer sans avoir à mettre ton pied comme ça. Juste si tu te débrouilles bien et que tu bouges bien tes hanches et tes trucs, tu peux réussir à avancer tout seul.
Okay.
Mais ça, c'est méga casse-gueule quand t'as pas l'habitude ou quoi. Ou alors, faut accepter l'idée qu'au départ, tu vas te galérer de ouf. Parce que juste mettre son pied dessus, si tu le mets pas bien au centre, bah la planche, elle part, tu vois, c'était un peu trop décalé. Et finalement, j'étais avec elle pour son anniversaire et tout. Et elle s'est offert un longboard. qui lui convenait bien, tu vois, qui était très cool et tout. On en a fait un petit peu, on était allé s'entraîner. Et ensuite, pour Noël, elle m'a offert, du coup, mon cruiser, quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
Okay. Pour qu'on qui m'a dit cette anecdote?
Hein?
Qui m'a dit cette anecdote?
Ah, parce que du coup, c'est une anecdote, ça.
Bah oui, c'est une
anecdote. Je crois que tu me disais juste ça comme ça, genre, ah, j'ai vu que c'est une anecdote.
Quelqu'un m'a dit, il a acheté un skate
pour faire du skate. Ça peut être Gowan, potentiellement.
Non.
Même pas? Parce qu'on avait parlé de skate ensemble aussi, pour qu'on en fasse. Georges, alors?
Ouais.
C'est évident. Ouais, okay.
C'est celle-là, de faire.
Oui, parce qu'on avait dit qu'on allait aussi en faire au comment ça s'appelle? Bref, t'as un énorme skatepark gigantesque au nord 18ème. Je crois que c'est le plus gros skatepark couvert de France.
Ah ouais, d'accord.
Et on s'était dit qu'on irait faire ça, tu vois, lui avec ses rollers, moi avec ça, et qu'on irait un peu s'amuser et tout.
Ouais, c'est vrai que lui, il fait du roller.
Ouais, à fond.
Et dernière anecdote. Alors, elle est un peu longue. T'as pas trop marché sur un plateau.
Ah.
Ok. On t'a dit au moins t'as gagné de l'argent. Et t'as pris une amende dans le train au retour.
Ça, c'est Adrien la brocante.
Ouais.
Ouais, c'était ma première amende de ma vie, en plus.
En plus.
De ma vie.
De ta vie, première amende. Waouh.
Première.
Waouh.
Ouais, parce que je suis très les trucs à la con comme ça, tu vois, je les respecte pour être tranquille, tu vois, je m'en fous. Mais en fait, c'est là où je me dis aussi, putain, t'es vraiment riche et blanc, parce que j'ai fait des blagues avec la meuf qui me mettait l'amende, tu vois. Tellement j'en avais rien à foutre, quoi. Ouais. Genre vraiment zéro pression, tu vois. Non, on avait joué dans un bled paumé, mais tu peux pas faire plus paumé que ça, je suis incapable de te
dire. Marcoussi.
C'était Marcoussi ?
C'était le plateau, c'est Marcoussi.
Ok. Bah.
Merci. Je sais qu'il faut y aller en voiture, c'est ça ?
Ouais. On avait fait rendez-vous à Bourg-la-Reine, et là, il y avait Else qui était venue nous chercher en voiture pour nous amener là-bas.
Il y avait toi, Else, Tom.
Et non, il y avait Eza.
Eza, il y avait pas Tom ? Ah, d'accord, autant pour moi.
Non, peut-être qu'il devait à la base.
Pas Valdetti, hein, mais Tom Dubois.
Ah bah, je sais même pas qui c'est.
C'est un petit jeune de 17 ans.
Ok.
Non,
je sais pas qui c'est. En tout cas, il était pas là. non, il y avait que Eza, moi, Else et Adrien, du coup, évidemment. Et ouais, j'ai pas trop marché parce que pour le coup, il m'avait proposé un peu la dernière minute. Je pense que c'était un truc de remplacement ou quoi. Et j'ai accepté parce que ouais, let's go, vivons des trucs. Et il m'a dit que le chapeau était bien en plus, tu vois. Ce qui était vraiment le cas. Mais du coup, il m'a dit que c'était quasi 15 minutes. Et du coup, j'ai ressorti du coup des textes que j'avais pas joué depuis un moment, tu vois. Et comme je m'entraîne tout le temps avant de jouer. Tout le temps, je m'entraîne. Et là, du coup, j'avais pas eu le temps, et du coup, j'avais oublié, c'est la moitié des blagues de ce sketch-là que j'avais rajouté, et du coup, j'étais hyper énervé parce que je déteste oublier des trucs.
Je comprends.
Et puis, après, la scène était un peu spéciale, c'était, tu vois, entre même si c'était très belle, tout ce que tu veux, des patrons adorables, tu vois, très très cool, mais public un peu disparate. Un peu genre public rugbyman qui sortait d'entraînement hyper chaud, tu vois, donc gentil, mais en même temps pas trop public discipliné, tu vois, comme on dit. Et voilà, c'était particulier, c'était pas ouf, un peu fatigant. Et bref, et sur le retour, on rentre, et en fait, comme on avait peur de rater le dernier métro, machin, le RER, on se dit, oh putain, après pour rentrer, ça va être chiant. Et en fait, on voit que sur le tableau qu'il allait arriver, et du coup on s'est dit putain vite, et je dis bon bah tant pis pour le ticket, tu vois, let's go. Et je me dis au pire j'avais des tickets sur moi, mais c'est juste que les tickets quand t'es loin, tu vois, de Paris fonctionnent pas, tu sais.
D'accord.
Et c'est chiant, donc vraiment tu dois prendre un truc exprès, tu vois, par exemple, tu vas en banlieue, donc tu peux faire le sens inverse, tu vois, prendre à Paris, et après on te check pas où tu arrêtes, surtout s'il y a pas de portique ou quoi. Et mais par contre l'inverse c'est plus chiant.
Ouais,
je dis tant pis, j'ai mes tickets, et je changerai là où je dois changer, je mettrai ça, et voilà quoi. Mais du coup, contrôleur quoi. Et au départ, il y a une meuf qui est check, elle fait « Ouais, contrôleur, du coup, j'y vais, salut !» Et on n'entend pas bien, tu vois. Et on comprend pourquoi cette meuf, elle part vite en disant au revoir sa copine, tu vois, à l'arrache. Et en fait, après, on capte qu'elle est contrôleur, je fais « Ah, bah tant pis, hein !» Du coup, j'ai fait des blagues avec la meuf en disant « Ah, vous avez pas le son contact sur votre machine ?»« Ah d'accord, ok. » Tu vois, j'étais vraiment détente totale. Déjà, genre, bon, c'était ma première amende. Et du coup, j'ai dit, sur mon chapeau, il y a 35 euros qui sont partis.
Première amende, du coup, t'avais 34 ans ?
33.
33 ans, première amende.
Ouais.
Seulement, moi, on est 24. Et... c'est plus que d'une. Enfin, il n'y a plus deux fêtes d'affilée.
Relou.
J'avais juste oublié ma carte Navigo. J'avais la flemme de payer les tickets et tout. Je me suis dit, je vais frauder.
Ouais.
Deux fois amende.
Oh, putain.
Je me suis dit, une fois, bon, bah c'est bon, bah, je continue, écoute. Je pensais pas me faire arrêter deux fois. Bon, tant pis.
Trop chiant. Mais ouais, ouais, c'est arrivé. Et... Je n'en avais rien à foutre. Justement, je dis, bah c'est dommage pour le chapeau, parce que du coup, tu enlèves 35 euros.
Oui,
tu
bah, 35 euros.
Ouais.
Oh, ça va.
Et parce qu'en fait, comme j'ai des tickets, mais juste, je les avais pas compostés, tu vois.
Ah ouais.
Je crois que du coup, ça a réduit de ouf le truc là. Bon. Normalement, c'est combien c'est...
Alors, je crois que c'est 50 euros. En tout cas, okay. En général, c'est 50 euros. Et quand tu passes les portiques, quand tu t'arrêtes.
Ouais.
Que tu passes les portiques derrière quelqu'un, tu vois. Et après, je passais juste derrière ma copine. Et il y a un mec qui commence à mettre son truc. C'est vraiment, il était en civil.
Ouais.
Il me dit voilà. Laisse tomber.
Pseudo super-héros. Ouais. C'est un talent.
Tu dis ah, merde.
Superman du pauvre. Le mec, il arrache pas son t-shirt, mais juste son brassard, quoi. Genre, tadam.
J'étais dégoûté. Une fois, ça m'est arrivé où. Bon, en fait, j'ai travaillé à SNCF à l'époque. Et ça, c'était grave, toi. J'ai travaillé à SNCF. Et j'avais mon ticket Carmillon. Du coup, et je passe vite derrière quand même, je prends le truc, et le gars il arrive comme ça d'un coup. Oui, vous avez pas passé votre titre de transport, donnez-le moi, tu vois, si vous en avez un. Et je leur donne le passe camion. Et il fait bah. Ah, pardon, et il était trop mal. C'était rigolo.
T'es de la maison quoi.
C'était ça, c'est vraiment un truc genre. Pardon. Et tu sais, des fois, genre, il ne regarde même pas si t'es valide. D'accord. Juste, il le regardait, il disait ah, c'est bon, ça passe.
Tu vois. Ok, d'accord.
J'en ai encore un chez moi, tu sais, je pourrais l'utiliser, je me disais.
Peut-être, hein.
Mais j'ai trop peur de me reprendre la main. Laisse tomber. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais du coup, là, tu connais pas assez des gens pour jouer vers Marseille?
Non, mais j'ai commencé déjà, et quand je descends de temps en temps, je joue quasiment tout le temps.
Ouais, le garage, tout ça.
Bah, le garage, je l'ai fait qu'une fois. Surtout à l'Ardu où j'avais joué plusieurs fois.
L'Ardu.
C'est un petit théâtre très stylé où, si je ne me trompe pas, Shirley a fait son spectacle là-bas quand elle est descendue. Et ouais, t'en as plein qui font leur spectacle là-bas en gros. C'est quand tu vas à Marseille, si tu fais une jauge, on va dire, de quasi 100 personnes, je crois, tu vas à l'Ardu, quoi, tu vois. Et c'est très cool, en fait, c'est un bar, et en fait, ils ont une salle, et c'est pas, une salle de bar chelou, dans une cave ou quoi, c'est, tu rentres, t'as vraiment très belle scène, les rideaux noirs, de belles régies lumière, son, etc., des gros fauteuils bien confortables, molletonnés rouges, quoi, tu vois, c'est vraiment un gros truc, très joli.
Okay.
Donc, j'allais là-bas, pour les open mic du dimanche soir, c'était 5 minutes. Et sinon, j'ai fait quoi? J'ai fait le Diogène aussi, qui est un plateau créé par Bédou. Qui du coup, Bédou, c'est parti des gens à Marseille. Si tu dois aller à Marseille, tu vas demander où tu peux jouer à Briac, à Bédou, au garage. Et normalement, ça devrait faire l'affaire, tu vois. Ils vont trouver des trucs s'ils ont de la place quelque part. Du coup, ouais, Bédou, j'ai fait ça avec lui. Et... L'Ardu, c'est là où j'allais régulièrement aussi. Et là, pour le coup, quand je suis descendu, j'ai découvert le théâtre de l'Antidote, qui est le théâtre qui appartient à Ali Bougueraba, le frère de Redouane Bougueraba. Oui. Et du coup, on a fait un plateau éphémère de stand-up là, dans la salle très théâtre aussi, donc c'était assez cool. Et ils sont en train de monter une salle dédiée au stand-up aussi. Okay, là-bas. Et du coup, ça agrandit, tu vois, l'offre stand-up à Marseille, c'est cool. J'ai fait un 3 minutes au garage.
Okay.
Le dimanche, et après j'ai refait le Diogène, mais cette fois plus dans la boîte punk où ils faisaient ça avant, mais dans un bar qui s'appelle la Brasserie Communale, qui est un énorme bar très bien placé dans Marseille, où t'as pas besoin de faire de la com, les gens ils viennent, tu vois.
D'accord, okay.
Donc c'est assez pratique pour ça. Mais disons que le garage et la Brasserie Communale, ça aurait pu, surtout la Brasserie Communale, ça aurait pu mieux se passer, mais je suis tombé vraiment les deux soirs où en théorie il devait pas avoir de spectacle. Genre, okay. Le premier soir c'était l'OM-PSG. Je me suis dit, il y aura personne à Marseille, en vrai bondé.
Ah ouais?
Ouais, c'était complet, 50 personnes au garage et tout. Et après tu te dis, ça a beau être Marseille, ça a beau être l'OM, c'est quand même une ville de quasi 1 million d'habitants, tu peux bien trouver 50 personnes qui ont pas envie de voir du foot, quoi. Tu
vois, mais bon, ça peut être trop. Paris, moi quand il y a du foot, c'est mort. C'est mort de chez mort.
Ah ouais?
À Paris, bah, au nul blague.
Ah, mais toi, c'est mercredi, c'est Ligue des Champions en plus.
Ouais, mais c'est mort.
En plus, ce qui est chiant, c'est que tu sais, le bar en haut, il passe le match. Donc des fois, tu te retrouves, tu
vois. Bah oui, en plus, ouais, forcément. Bah,
tu l'as vu à la fin, le bruit.
Ouais, ouais, on peut l'entendre. C'est pour ça que t'as mis ton super rideau là.
Ton super rideau qui a coûté
qu'on doit tirer à chaque fois, qu'on doit remettre.
Il m'a coûté une blinde, mais il est là. Il aide un peu quand même.
Non, il aide bien. Un peu. Et le deuxième truc là, Diogène, c'était la semaine d'après, du coup, c'était le soir du second tour des élections. Donc vraiment, je t'appelle les deux soirs, tu vois, où en théorie, tu dis les gens ils vont pas être là, tu vois.
Il y avait des gens quand même ?
Il y avait des gens, mais qui étaient un public pas du tout stand-up, qui connaissaient pas, qui en avaient jamais vu.
Parce que moi, tu sais, au Castle à Fnumbo, c'est toutes les deux semaines, le dimanche, et c'était, ça tombe pendant les élections. J'ai annulé le plateau parce que, déjà, il n'y a pas tout le temps beaucoup de monde.
Ouais.
En vrai, ça va commencer à remplir pas mal maintenant. En général, une trentaine de personnes à chaque fois. Mais je me suis dit, avec les élections, personne. Et en vrai, je me dis, tu sais, les gens auraient été sur Fontainebleau, tout ça. Les humoristes, je veux dire, j'aurais dit, ok, tu vois. Là, je vais venir des gens de Paris, ils viennent, il n'y a personne, c'est galère. Quoi.
Ouais, c'est badant. Là, pour le coup, ouais, dans Marseille, c'est facile d'accès et tout. La majorité. T'en as qu'un qui habite loin, mais lui, il est habitué à l'idée de faire tous ses trajets comme ça, quoi. Il est loin, il est à une heure de Marseille quasiment. Mais sinon, moi j'étais à côté, tu vois, donc je m'en foutais. Mais au final, il y a quand même eu des gens. Mais je crois que le problème, ça n'avait même pas été les élections, c'était que c'était les premières éclaircies du week-end, parce qu'il avait fait un temps dégueulasse pendant 3 jours. Et là, il faisait enfin beau, du coup, les gens étaient en terrasse, tu vois, genre, yes, enfin, tu vois, on peut sortir.
Tu m'étais tout au Marseille, même dehors, mais...
Bah ouais. Et t'avais ça, plus. Mais c'était cool, t'avais les jeunes qui attendaient d'aller en manif, tu vois, juste après le résultat du second tour. Bah ouais, t'en avais qui étaient là, qui voyaient le spectacle, et après, t'es alors, bon, allez, c'est parti, on va en manif, tu vois, après le résultat. C'était rigolo. Et mais là pour le coup on est tombé sur un public mais tellement bizarre, déjà ils connaissaient pas, donc ils ont pas forcément les codes, etc. Même si Bédou il a fait la chauffe qu'il fallait, il a fait vraiment le taf, le public était quand même genre, c'est très un public poli, on sourit, tu vois, tranquille, etc. Et ils étaient très bizarres parce qu'ils applaudissaient pas, déjà ils riaient pas tant que ça, ils souriaient beaucoup, ils étaient attentifs, hein, faut pas... T'en avais aucun qui faisait une tête de « putain, j'ai envie de me casser », tu vois quoi. Ils étaient vraiment attendus, ils voulaient être jusqu'au bout. Ils applaudissaient aux entrées et aux sorties à fond. Genre comme si c'était dans, tu vois, un stade. Ouais. Mais après, ils applaudissaient qu'au moment sérieux. Jamais aux blagues. Genre, moi, t'as un gars, il fait Pascal Tino, qui lui voulait un humoriste qui a un spectacle aussi à Marseille. Et bon, il fait ses blagues et tout. Et au moment, avant de faire des blagues sur la clope et tout, il dit « ça fait tant de mois que j'ai arrêté de fumer ». Et là, les gens ils applaudissent. Mais sur les blagues, non. Moi, j'ai un sketch où je parle justement de l'extrême droite et machin, genre. Et à la fin, il y a une morale. Toutes les blagues avant la morale et tout, les gens ils sont genre, ok, tu vois, genre gentil. Et la morale, par contre, ils sont genre, bravo. Tu sais, genre, je te l'en blague. C'est les blagues qui comptent, c'est pas la morale, c'est bien, mais. Nous, on a besoin que vous applaudissiez et rigoliez fort pendant les blagues. Ça nous motive, c'est comme ça. Du coup, c'était assez particulier, quoi. Mais on a quand même vu que les gens avaient apprécié parce que, tu vois, à la fin, t'as des gens qui sont venus, ils ont acheté des billets de vin directement. Donc, t'en as qui ont apprécié, tu vois, quand même. Mais ils étaient timides, quoi, tu vois, c'était comme ça. Donc, faut pas le prendre trop mal, juste accepter l'idée que tout le monde rit pas fort. Et tant que les gens ils sont dans une bonne vibe et qu'ils kiffent ce que tu fais, bah.
Quand les gens partent, ils sont bien, c'est cool, bien.
Ouais, bien. Bah ouais, c'est comme ça.
Entendu.
Ouais, c'était pas cool pour une des humoristes parce que c'était sa première fois là, dans cet endroit-là. Elle était habituée plus à l'ardu open mic où là c'est vraiment l'ardu open mic, c'est 50 personnes en feu, quoi, tu vois.
D'accord.
Vraiment, au taquet, c'est trop une bonne ambiance et tout ça. Et ils sont hyper cool avec les débutants aussi, genre vraiment, ils sont habitués en plus à ça, trop bien, ils te soutiennent à fond, tu vois, ils connaissent tout. Et donc t'avais cette meuf-là, elle était habituée à ça. Et là, elle rentre dans cette scène-là, qui allait être potentiellement un bourbier, mais on ne savait pas encore. Et ça l'a totalement déstabilisé parce qu'elle ne connaissait pas encore ça, et du coup, elle a oublié 3 fois son texte. Tu vois. Elle était désolée, on fait non, mais t'inquiète, c'est la vie, tout comme ça. Mais voilà, les gens étaient quand même gentils, ils l'ont quand même soutenu, et après, on s'est tous ratés, quoi. Après, genre, vraiment, t'en as pas un qui a réussi à choper, tu sais, vraiment une énergie de on adore ce que tu fais, continue, tu vois. Tout le monde était là, genre. Bon, bah au moins moi j'ai terminé, hein, tu vois, je vais aller boire un verre et salut.
T'es content de sortir de scène,
c'est ouais, bon. C'est très bizarre, ouais, clairement. Là, c'est quand même, une fois au Barbès, là, t'as quelqu'un qui est arrivé bourré, mais jamais vu ça, quoi.
Vraiment. Sur scène ou
Non, public, mais le public premier rang, quoi. Genre tu veux pas voir quelqu'un plus que lui, tu vois, vraiment, premier rang avec ces deux autres.
En plus tu vois vraiment quoi, tu vois les trois, le premier rang,
ouais, tu
les vois, et derrière tu vois plus rien, tu vois.
Ouais. Et là tu les vois, les trois potes, tous ivres, mais t'en as un qui parle. Les autres ils parlent pas, ils sont genre bourrés discrets quoi. T'en as un qui est vraiment beaucoup trop loquace quoi. Et t'as Tom en MC, Baldetti qui déjà essaie de le gérer un peu. Le premier à passer c'est Maoulé. Et quand Maoulé revient, il fait « Bon, bah déjà, les gars, bonne chance, hein, bon, j'ai terminé, hein, allez, salut, bon courage. » Et au moment où moi je passe, sans déconner, le mec il fait « Hey, tu veux pas appeler les serveurs, s'il te plaît ?» Au moment où je suis sur scène, je suis alors « Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ?»
Il y a un petit bouton sur la table.
Oh là là, mais c'était ouf, quoi. Le mec, vraiment, en fait, le gars, il s'est dit « C'est une bonne idée de se bourrer la gueule après avoir fait le semi-marathon. »
Ah, il a fait ce semi-marathon ici.
Ouais. Je crois que c'est ce semi-marathon ou je sais plus combien, mais en tout cas, il avait fait un marathon, tu vois. Et après, il s'est bourré la gueule. Donc, forcément, il était dans un état indescriptible, quoi, tu vois.
Bah oui,
même ses potes, ils avaient honte. Ils disaient, oh non. Dès qu'ils commandent des trucs, ils disaient, non, arrête. Après, c'est, oh, désolé.
Plus, c'est fou, j'ai l'impression que plus t'es bourré, plus tu veux boire. C'est fou quand même. Hein.
Ouais.
Mais moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais je me dis, faut avoir un putain de compte en banque quand même pour se bourrer la gueule dans des bars, tu vois. En vrai. Moi, c'est pas l'argent pour. Je suis déjà allé dans des bars pour boire et tout, tu vois. Tu prends un ou deux verres, tu vois, et puis c'est tout. Parce que ça coûte cher quand même dans un bar.
Mmh. Après, ça dépend de ta résistance à l'alcool.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Moi, j'ai des phases où je bois deux pintes et je suis. Qu'est-ce que je vais me faire là déjà? Ah, yes, ok.
Putain, bah, la dernière fois,
c'était. Où je sais que je veux pas plus, quoi, tu vois.
Tu vois, la dernière fois, c'était au Traquenard. Mmh. Et moi, je prends toujours un Monaco, en général, comme ça c'est un truc, moi j'ai l'habitude de boire les boissons assez rapidement. Je dis Monaco c'est doux, c'est tranquille, tu vois, je suis favori. En fait, elle a servi un Monaco, elle a très mal servi, elle a pas mis de... elle a mis sirop, bière.
Ok, pas la limonade, ok.
Tu vois. Et du coup, moi je bois ça vite et tout, et je commence à boire chaud et tout. Et je monte sur scène, et c'était pas bourré, hein, mais genre, je commençais à être bien, tu vois. J'avais la pâteuse, les articles, je parle vite déjà de base sur scène. Et dans la vie, j'articule pas très bien, mais là c'était encore pire et tout. horrible. Après, j'ai fait un bon passage, ça va, mais c'était très très dur. T'as déjà joué bourré?
Je crois que j'ai fait une fois et. Pas envie que ça recommence quoi. Ouais. En fait, j'étais pas bourré, mais c'est juste. C'était assez d'alcool pour que je sois plus concentré, tu vois. Et que ça commence déjà un truc. En fait, j'avais fait une. En fait, c'était au Barbès, c'était la fois que j'ai le plus détesté de ma vie. Au Barbès, j'ai regardé mon texte trois fois, alors que normalement, je regarde jamais mon texte. Même quand c'est admis qu'en open mic, tu peux prendre tes notes et tout, je suis le genre de personne qui, jamais de la vie, je fais ça, tu vois. Genre, moi, j'apprends et après, je viens jouer. Et en fait, j'avais fait un passage aux 7 blagues, qui s'était grave bien passé et tout, trop cool. Je lui ai dit, bah tiens, dans la foulée, je vais aller au Barbès, tu vois.
C'est combien de temps ça?
C'est quand le set blague, c'était encore au street.
D'accord, ouais. Ok.
Donc ça date maintenant. Mmh. Bon, en vrai, ça reste récent dans l'histoire de ce plateau, mais c'était cette époque-là, quoi. Et ça se passe trop bien, cool et tout. Et je lui ai dit, bon, go, le Barbès, tu vois, en rentrant à la maison. J'y passe, et en fait, je comptais pas y aller au début. Et du coup, je joue au street art. Moi j'avais fait un truc tout nouveau, du coup j'étais stressé, ça se passe bien, je bois une pinte, je discute, après qu'un autre gars me dit « Ah, on va au Barbès, on y va », et au final du coup je dis « Bon bah je vais jouer, tu vois, vu que je suis dans une bonne vibe », mais j'avais bu, et ça commençait à faire effet avec l'adrénaline et le machin et tout, et du coup j'étais pas là quoi. Et j'ai alors « Putain, mais plus jamais je bois avant, tu vois ». Et vraiment maintenant c'est mon truc, tu vois, c'est « Je ne bois pas, quoi qu'il arrive
okay. ».
Parce que je sais pas comment mon corps peut réagir, des fois c'est pas juste le fait d'être... d'avoir l'impression d'être bourré et de pas être là, mais c'est même juste potentiellement mal digéré, tu vois, avoir mal au bide, même avoir envie de vomir ou quoi, mais j'ai pas envie d'être dans des conditions nulles avant de jouer, quoi, tu vois, qui influence l'état d'esprit, quoi, histoire de faire ça bien, tu vois, donc non, c'est d'abord je fais mon truc, et après on voit, tu vois, potentiellement si j'ai envie de boire des coups.
Okay. Du coup, c'est le pire moment sur scène, non?
C'est pas que je pense, hein.
Parce que là, tu m'as dit beaucoup de moments compliqués.
Non,
enfin, compliqués, pas dur, mais je veux dire, où t'es arrivé quelque chose, genre le micro, du coup.
Non, mais le micro, c'était un bon passage. Alors, pour le coup, le micro, c'est juste une anecdote bizarre parce que c'est improbable, tu vois. Mais moi, je l'ai pas vécu, ça. Je l'ai vu avant 100 ans.
Tu me diras, je pense que tu le sais, mais enfin, tu l'as vu, il y a beaucoup de plateaux. Bizarrement, le micro, il est un peu tapé à un endroit.
Oui.
C'est
moi.
C'est toi, tu les as tous défoncés.
Tous les gros dans les
Au Paname, il est un peu, je crois, enfin, la dernière fois que j'y suis allé, il était un peu tordu. Je trouve que c'est toi qui l'as tous tordu.
Pardon. Désolé, mec, il nique tous les micros et après il fait que des passages uniques parce qu'après ils veulent me retrouver pour que je lui paye le micro. Mais non, pour le coup, le micro sur le front, ça a été un bon moment, les gens ils avaient ri, j'avais fait mon truc, j'étais trop content, c'est juste que je suis sorti, les gens m'ont dit ça, et c'est après, tu vois. Donc non, le passage était bien.
Okay.
Non, les moments pas ouf, il y en a eu des moments pas ouf, où c'est genre ta première fois à faire un 10 minutes, ou alors la première fois que tu joues devant peu de gens, et du coup t'es mal à l'aise par rapport aux conditions, c'est déjà des moments agréables, mais là je crois que c'est le moment que j'ai le plus détesté au Barbès, parce que j'avais honte de moi, tu vois. Parce que vraiment, l'idée de commencer une phrase et de là, ah, qu'est-ce que j'allais dire ? Attendez, je prends mon portable, je regarde, et tu dis deux phrases, et après, tu t'as re-un trou, tu vois, genre, non, mais c'est... Là, pour moi, c'était indigne, parce que j'ai vraiment un truc de respect du public à fond, tu vois.
Ouais.
Peu importe ce que j'ai... C'est vrai que, genre, j'ai beaucoup de mal, et je respecte les copains qui pourraient écouter et qui le font, j'ai aucun problème avec ça, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai un énorme problème avec le fait de regarder des notes sur scène devant les gens, parce que je pars du principe que même si c'est un open mic... quelque part, t'es censé être prêt quand tu vas jouer devant un public, tu vois.
Ouais, ouais, on fait rarement un open mic genre 5 minutes avant, tu vois.
Ouais, voilà, c'est rare, tu vois. Limite que t'es potentiellement juste, pourquoi pas, juste tu vois, un listing, tu vois, des sujets que tu voulais aborder, t'es là, genre tac. Mais si potentiellement c'est pour, je sais pas, 10 minutes ou quoi, tu vois, je veux bien imaginer que t'es besoin, c'est vite fait, c'est mes trucs nouveaux. Mais. En plus, j'aime bien le côté, genre, si tu le dis avant, tu vois, genre, alors par contre, je vais tester des blagues et tout, j'aime bien le côté, genre, tu vois, tu tiens les gens au courant et tu dis ce qui se passe. Après, arriver, oui, le public, tu vois, potentiellement, même si parfois, il paye pas, il y a des moments où il paye même pas beaucoup pour voir des gens faire des nouvelles blagues et tout, et je pense que tu dois quand même, genre, respecter ça. Et, et moi, je le mets trop, j'associe trop les deux, tu vois.
Bah, moi, au niveau du respect des gens qui payent, je parle de penser quand même que les gens sont déplacés dans un comedy club ou dans un endroit pour voir du stand-up, tu vois.
Ouais.
Genre, ça se trouve, ce soir-là, ils n'étaient pas censés payer une bière.
Mmh.
Donc, ils l'ont fait. Bon, après, des gens qui sont déjà dans le bar, tu leur dis, ouais, il y a du stand-up, ouais, bah, on va voir. Là, c'est différent parce que c'est prévu, mais à ce moment, les gens ont pris, des fois, il y a des gens qui ont pris une réservation sur billets réduits. Donc, la réservation, c'est 2 euros sur billets réduits.
Ouais, ouais.
Donc, oui, je comprends qu'il y a ce niveau de respect à avoir.
Ouais, t'es là, faut que le truc soit bien et. En fait, ça, c'est que même si à la fin ton passage il plaît pas ou qu'il est nul, parce qu'au final t'es passé à côté, tu vois, ça nous arrive, on va aborder un sujet, on passe à côté, tu vois, de ce qui aurait pu être vraiment marrant ou on n'a pas assez approfondi et tout, mais le moment où tu penses que t'as assez travaillé, ben, je pense que tu dois donner cette impression là aux gens, tu vois, que tu viens leur donner un truc propre, tu vois, c'est pas ce moment là où t'es censé genre douter, trouver ça pas drôle ce que t'as fait, machin. Non, pour moi, pour les gens, tu dois leur montrer un truc qui leur semble pas sûr dans notre sens à nous de faire du surmachin, mais en tout cas qui semble bah t'es sûr de toi quand tu viens le dire, tu vois, genre voilà, tu viens le vendre, tu vois, d'une bonne manière.
Mais ça, tu vois, c'est
peu importe le niveau de la blague, tu vois.
Tu vois, ça, j'ai le même truc. Oui, c'est vrai, j'ai le même truc où pareil, j'ai appris quelqu'un. Un humoriste pas méchant du tout, hein, mais il était venu par exemple, il était venu parler. Bah t'as dû voir le policier qui a oublié de couper son téléphone, enfin le téléphone de la police. Il y avait une femme qui allait porter plainte pour une agression et en fait il pouvait pas être en face de la personne qui l'avait agressé. Et le gars il dit ouais, cette connasse, tout ça, le flic.
Ah oui, c'est anecdote, ouais, je m'en souviens.
Et en fait il y a un humoriste qui vient sur scène pour en parler, et tu sentais qu'en fait quand il est venu en parler, il avait vu juste le titre en gros. Regarde deux trois trucs et c'est tout, donc il a commencé à faire un truc dessus et en fait c'est pas super renseigné tout ça, et tu vois, genre tu sentais qu'il avait vu le truc, bim, ça doit être drôle, et il s'était pas trop renseigné. Et il a pas trop marché, et je lui dis en vrai que même si ces blagues sont pas drôles, s'il est renseigné à fond là dessus tu vois, genre les gens vont quand même trouver ça intéressant.
Oui,
de base,
ça.
Tu vois, donc peut-être que ce sera pas drôle, mais ce sera intéressant, donc le public serait content, tu vois. Donc, l'idée de se renseigner un peu plus sur le truc.
Bah, c'est hyper important. Là, je regardais un gars, là, j'en voulais pas quand j'ai fait le plateau avec lui. Enfin, comme si j'allais en vouloir quelqu'un de fin de blague, mais juste que quand on est dedans, des fois, t'as un peu... Quand tu vois que la personne, elle passe à côté, t'es genre... Putain
ouais, ouais, je comprends.
Ça, t'as ce truc un peu de... Mec tu bossais 2 minutes en plus ou 10 minutes oui, oui. Et t'allais trouver un truc super par rapport à ça. Mais genre, t'as un gars, il fait des blagues il a été... Comment dire? Il a fait ce truc qui va être un peu étonnant, mais... Pour moi, il s'est planté dès le départ. Sur ce qu'il devait dire pour que ce soit bien, parce qu'en vrai, c'était illogique, tu vois. Mais, par contre, il est allé jusqu'au bout de son truc où il s'est raté, tu vois. Donc, il y avait ce truc de, ok, c'est assumé jusqu'au bout. Lui, il pense que c'est logique, ce qu'il croit. Donc, du coup, ok, tu vois, il nous le vend bien parce qu'il y croit à fond. Mais il va jusqu'au bout de son truc. Du coup, il fait toutes les blagues qu'il pourrait faire sur ça, il les fait et tout. Du coup, je dis, bon, bah, au moins, le mec, il fait ça bien. Et c'est ok, il nous respecte, tu vois, il respecte le public d'avoir fait le truc à fond et de pas être en train de chercher sur ses notes, c'était ok. Par contre, en termes de travail, c'était à chier, mais ça c'est pas grave, tu vois, parce que ça il peut le revenir dessus. Mmh. Ça il peut discuter, on peut discuter avec lui, genre mec, en fait, moi en tant que spectateur, j'ai pas adhéré à ton truc parce que ce que tu dis dès le début, c'est illogique. Mmh. Et moi en fait, du coup, tout le long, je pensais qu'à ça, au fait que ça avait pas de sens. Ouais. Du coup, tout ce que tu disais après n'avait pas de sens. Mmh. Donc pour toi, ça en avait, donc potentiellement pour d'autres, ça aurait pu en avoir aussi, mais en vrai, ça se tient pas, tu vois ce que tu racontes. Mais ça, ça peut se travailler après. Mais à partir du moment où la personne fait ça, genre ce qu'il pense être fait, il le fait genre bien, enfin, il pense l'avoir bien fait et il l'assume devant les gens, là, je trouve ça ok, tu vois.
Ouais.
C'est pas trop grave.
Oui, oui, c'est pas grave.
C'est améliorable après, tu vois. Bien sûr. Mais je préfère ça plutôt que quelqu'un qui même a écrit un truc cool, mais vient en mode balèque avec ses feuilles, genre « Ah, je vais tester ça, d'accord ?» Ça me gave, tu vois.
Ouais, ouais.
Moi, c'est... Ouais. Peut-être que... trop accès théâtre ou quoi, j'en sais rien, tu vois, sur ce point de vue-là. Mais c'est un truc qui m'embête beaucoup, quoi.
Tu vois, un truc, ça me fait penser... Moi, je me pose toujours une question. Je vois, tu sais, des fois, ils viennent... Pas avec des notes, un papier, tu vois, par exemple... Ils s'en servent pendant le spectacle parce qu'ils disent j'ai reçu une lettre de démission, tout ça, ceci, cela, et ils disaient. C'est un exemple, tu vois, mais il y a plein de trucs comme ça où les gens viennent avec une feuille, et je me dis, il y a quoi marqué sur la feuille? Est-ce qu'il y a vraiment marqué le texte? Je me pose toujours la question. Est-ce qu'il y a vraiment marqué le texte? Est-ce qu'il dit vraiment le texte ou pas, tu vois?
Ouais, je
ne
sais pas du tout.
J'ai jamais osé poser la question parce que je me suis dit, peut-être l'autre réflexion, ils disent, bah non, je connais mon texte et tout. Je sais pas. Je sais pas, je me demande si. S'ils ont leur texte.
Et après, pourquoi pas, tu vois.
Après, ouais, en vrai.
En vrai, quitte à faire ça, autant mettre les choses.
C'est vrai, autant mettre les choses.
Libérer de l'espace, tu vois, de mémoire, mais.
C'est pas aussi.
Mais c'est vrai que c'est très très chelou. Ah, il y a un truc qui m'a énervé hier aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait trop qui le faisaient et ça me gave. Les gens qui font des blagues racistes et qui après disent ah ben bravo, vous rigolez à des blagues racistes. Tu vois ça? Ah! Mec, t'as. Assume que ce soit une blague raciste et que t'as envie de faire une blague raciste, mais pas les autres comme une caution, tu vois, pour raconter de la merde.
Ouais, mais c'est ça. Mais alors, je te dirai le nom plus tard de la personne, mais on avait sur Ocasson, avec Adrien, avec quelqu'un, on avait invité une personne qui a un très très bon niveau, et il fait un truc avec Adrien. Adrien, il le kiffe pas trop. Moi, je le ferai plus jouer maintenant parce que c'est compliqué, mais. Adrien qui fait trop, moi j'aimais bien ce qu'il faisait tout ça. Et en fait, à un moment donné, il fait une blague raciste et il fait ça et il dit vous rigolez une blague raciste. Adrien il fait bah ouais, mais c'était raciste, tu vois. Il dit, ouais, mais c'était raciste toi aussi. Genre, mais là, il y a grave plein qui font ça. Genre, on fait un top 3 des trucs qui sont trop souvent faits.
Ok, qu'on déteste.
Qu'on déteste. Moi, un truc, alors, moi je le fais. Mais je trouve que je le fais bien.
Ok.
Mais enfin, les gens au départ, ils peuvent se poser la question. C'est, tu sais, genre, vous me reconnaissez? Non? Et ben c'est parce que je suis pas connu, tu vois.
Ah
c'est,
ouais.
Ces trucs-là. Moi, je le fais, tu sais, vous me reconnaissez, pas comme mon père, tu vois. Genre,
ouais, ça c'est très drôle.
Ouais, ça c'est. Ouais, ouais. Voilà, je,
oui, parce que tu t'en sers, mais pour parler
voilà,
d'autre chose.
Voilà, hein, donc ça va. Je vais pas pour ça, tu vois.
Ouais, totalement.
Mais, ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font ça. Non, parce que c'est pas encore percé.
Alors moi, le truc que je hais le plus, plus que le truc du racisme, parce que le truc du racisme, j'ai vraiment genre, je me suis surtout rendu compte hier, tu vois, en disant, mais putain, mais en fait, c'est de la merde de faire ça. Non, non, le truc que je déteste le plus, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je m'en suis rendu compte, et ça me rend fou, parce que tous les soirs, il y en a qui le font plusieurs fois par soir, mais c'est quand les gens font des blagues, et qu'il y en a une qui marche pas, et qu'ils disent, ah, je pensais qu'elle allait marcher celle-là, ou alors, bon bah tant pis, celle-là, elle marche pas, je peux vraiment... me rouler par terre et crier tel un bébé.
Alors ça m'arrive, ça m'arrive que je le fais.
Mais c'est un réflexe de merde, je sais.
En fait,
hein, mais...
c'est pas un réflexe. Je fais pas ça pour faire rire des gens. Moi, je fais ça parce que je réfléchis et je fais ça, mais... Et je me dis, mais putain, mais elle est drôle celle-là. Je me dis, elle est drôle. Je sais, bon, bah, elle a pas marché. Et en fait, juste parce que je suis dégoûté, je pense fort. C'est... Vraiment, je
ouais,
pense
ouais,
fort. En mode, je suis dégoûté. Bon, bah, elle a pas marché celle-là. Mais je suis dégoûté.
Je suis dégoûté. Là, moi, en fait, c'est... Peut-être que je suis trop dans le truc de la... Parfois du stand-up, trop dans le côté représentation Toi, je suis vraiment dans la limite du quatrième mur, tu vois, parfois. Des fois, je suis à deux doigts de le remettre, tu sais, dans les trucs que j'ai envie de faire. Mais pour moi, du coup, ça va un peu trop avec, mais c'est que je me dis... pour moi, t'as pas à leur dire ça au public, tu vois. Genre leur dire que... En fait, pour moi, c'est comme le fait de prendre des notes. Tu vois, le fait de dire, tu fais une blague, et ils ont pas la réaction attendue, et du coup, tu leur dis, je pensais qu'elle était drôle. Ça, je trouve qu'il y a un peu un truc de... À la fois, c'est pour retrouver de la contenance, à la fois, c'est pour t'aider à rebondir, parfois, ça aide à faire ça, tu vois, et tu sais que tu peux choper aller un rire sur le fait d'avoir dit ça. Et ça peut te remotiver. Mais pour moi, j'ai l'impression que tu donnes trop tu montres trop les coulisses, tu vois, au public.
Ouais, je comprends.
Moi, il y a un peu, c'est un peu l'impression que ça me donne de... même si un côté de... Il faut donner l'impression que c'est naturel. Ce qu'on fait, c'est pas du tout naturel, tu vois. Ça n'a aucun sens ce qu'on fait, tu vois, de se mettre seul sur scène pour faire ça. Et je trouve que le côté, genre, tu viens faire une représentation à quelqu'un et tu dis... finalement, c'est pas bien ce que j'ai fait là. Je trouve ça hyper bizarre. Pour moi, en fait, ça me fait sortir du truc, tu vois,
un petit peu. Je comprends, parce qu'en plus, c'est con, mais... je l'ai fait en plus, mercredi dernier.
Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je crois que tu l'as fait.
Parce qu'il y a une blague que je trouve hyper drôle, et je la continue de la faire, mais je trouve hyper drôle à chaque fois. Et je me dis, un jour, elle deviendra drôle, c'est sûr. La blague où je parle, du coup, de contraception masculine.
Ouais.
Tu sais, et à la fin, ça fait une sorte de petite leçon de morale, mais je trouve que la blague est drôle. Où je dis un mec qui est sur Darknet qui vend des armes, il est condamné pour. Il peut être condamné parce qu'il est susceptible de soutenir le terrorisme.
Ouais.
Et une meuf qui vend des armes de contraception. De contraception pour sur Darknet, elle est susceptible de soutenir le féminisme.
Moi j'avais ri, je trouve ça drôle, mais les gens ne rigolent jamais à ça. Mais d'ailleurs, j'avais dit à ce moment-là, j'avais dit oui, elle est drôle.
Oui, elle est drôle, mais des gens ne rigolent pas à cette blague. Oui, et ça me saoule parce que je me dis, mais c'est super drôle quand même.
Bah oui, mais garde ça en tête. Alors pour moi, j'ai un truc de. Mais parce que je suis trop dans la représentation, plus que dans l'interaction et tout, de. Tu fais ton truc et tu vois ce que les gens. Ce à quoi les gens réagissent ou pas, tu vois. Et après, tu rentres chez toi et tu réfléchis, tu réécoutes, tu taffes, tu vois si potentiellement, est-ce que j'ai parlé trop vite ce jour-là, parce que tu dis que tu parles beaucoup trop vite, tu vois, souvent, donc peut-être que moi, des fois, ça m'arrive.
Ouais.
Je sais que des gens, des fois, passent à côté de certains trucs parce qu'il faut que je ralentisse. Peut-être que là, c'est le cas, et donc tu te réécoutes, tu vois, peut-être que, bon, comme d'hab, c'est l'écriture, ça, c'est notre taf permanent. Mais j'ai tout le temps ce truc de, tu fais le truc... Et après tu te casses, mais tu analyses pas tout ce qui se passe sur scène directement.
Ouais,
tu vois.
Ah, moi tu vois, j'analyse tout sur scène.
Mais non, je veux dire pas en interaction avec eux. Dans ta tête, tu peux.
Ouais.
Mais moi j'aime pas ce côté-là de. Ah non, alors attendez, j'en étais où? Ok. Ah non, ça vous aimait pas? Ok, super. Ou alors, limite, pourquoi pas te poser des questions après? Parce tu vois, que... alors vous avez pas compris, qu'est-ce qu'il y a? Ou tu vois.
Parce que cette blague-là, ça fait.
Elle est grave bien.
Au moins 8 fois que je la fais, et à chaque fois elle ne passe pas. Et la première fois, je me suis fait, bon, bah, passe pas trop vite, tu vois, c'est pas grave. Et j'ai essayé de la faire avec des pauses avant, parler plus doucement, mais ça ne passe pas. Mais je vais la rendre drôle. Un jour, tu vas me voir, tu vas dire, ah, t'as réussi, c'est sûr, il faut que je la rende drôle.
Non, parce qu'elle est super en plus, moi je l'aime beaucoup.
Ouais.
Mais il faut trouver le moyen de la donner au public, quoi. Mais non, elle est très cool. Donc, ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que en plus, le truc qui fait que j'ai vraiment du mal avec ça, c'est que souvent on fait des plateaux où on voit plusieurs humoristes d'affilée, et t'en as plusieurs qui vont faire d'affilée, et du coup ça rend le truc encore plus fou, quoi, tu vois, t'en as vraiment, vraiment ras-le-bol. Attends, mais du coup, c'est vrai, je crois que j'ai vu un autre truc hier qui m'a gavé, décidément, et qui rentrait un peu dans tout ça, mais j'ai oublié. Je vais attendre un autre truc qui t'a
fait. Après, c'est trucs, après, ça se fait beaucoup moins. Mais ça m'a dit, qu'est-ce que j'avais vu qui. Il y a longtemps maintenant, mais tu sais, il y a un gars qui. Peut-être qu'il commençait, tu vois. Mais tu sais, vous avez pas remarqué, mais je sais pas si vous avez remarqué
tout le temps.
Après, les gens font de moins en moins, donc c'est cool.
Si, alors moi c'est plus le mec, le truc organisateur. Quand t'organises un plateau, les gens tu leur mets les miens et des fois ils t'arrêtent et oui c'est bon j'ai vu que c'était fini et ils continuent.
Ouais.
Bah non, genre t'as mis la lumière, finis ton truc, mais il y en a, tu sais, ils voient la lumière, ils regardent et ils disent bon, et puis ils continuent, mais ça m'est arrivé où des gens, par exemple, moi l'open mic c'est 5 minutes, il y a des gens qui font 10 minutes.
Est-ce qu'ils vraiment ils...
Ah ouais, ouais. Oh, tu sais, genre, il y en a, ils font 6 minutes, c'est pas grave, tranquille. 6 minutes 30, bon, je te dis, fais gaffe un peu à l'autant, et puis c'est tout quoi.
Bien sûr.
Mais 10 minutes, bah t'abuses là.
Bah ouais.
T'abuses.
Bah oui. Parce que du coup, tu dis quoi aux autres
En fait, c'est ça, c'est genre tout le monde.
Tout à 5 minutes, sinon là, ils respectent, t'es un gars,
c'est un truc de règle. Bon, il y a que moi qui fais 10 minutes parce que moi je m'en bats les couilles. C'est mon truc à moi.
C'est chez toi, fais ce que tu veux.
Ouais, genre, c'est un truc que tout le monde respecte, 5 minutes. Et surtout qu'en plus, il y a un plateau après, tu vois.
En plus,
genre, ouais. 22h30, ça passe.
Ouais.
Mais genre, 21h15, c'est galère quoi.
Oui, les gens ils attendent pour le reste. Ouais. Ouais, bien sûr. Et oui, et puis c'est compliqué de dire aux gens qui sont passés avant, eh, vas-y, moi j'ai fait 5 minutes, si j'avais su, j'aurais fait 10 aussi, tu vois, c'est quoi le délire quoi.
Et puis il y a des gens qui viennent, après, ils disent, oh, est-ce que moi j'ai fait trop long, je savais pas et tout. Genre, c'est pas grave. Il y a des gens qui. Oh, c'est bon, tu vas pas me saouler pour ça, tu vois.
Ah, t'en as qui t'ont dit ça.
Ah, bah hein. Oui, mais oui, mais il y en a.
Bah oui, bah tant pis, ils seront plus réinvités, ces gens-là, et ils se poseront les questions qu'il faut à ce moment-là, mais c'est, ça fait chier de devoir passer par ça, quoi.
Bah ouais, moi c'est dommage, c'est dommage.
C'est relou. Moi, il y a aussi, j'en parlais avec Alison, qui est une humoriste de Marseille, dans les trucs relous, elle m'a partagé un truc, et c'est vrai que c'est un peu chiant, mais je l'avais pas. Conscientiser avant qu'elle m'en parle. C'est la blague qu'elle déteste. Bon, du coup, bah voilà, je la balance, hein, c'est pas grave. C'est à chaque fois qu'il y a des gamins dans le public, ils disent eh ben quand tu vas sortir, tu seras majeur. Tu vois, ce genre de truc-là. Alors,
je l'ai utilisé au début.
Ouais.
Maintenant, j'arrête de l'utiliser.
Parce que tout le monde l'a fait, tu vois, et c'est chiant au bout d'un moment. Ça fait partie des trucs à force.
Maintenant, quand il y a des enfants qui se réveillent, je fais qui sont vos parents irresponsables, tu vois.
Ouais.
Tu vois, je m'en prends plus aux parents qu'aux enfants, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, ça arrive.
Et puis surtout, en plus, je trouve qu'une fois que t'as vu Pulsion de Cannes, où il fait ça, il fait ce truc-là.
Il fait ce truc-là dans Pulsion.
Ouais, mais de la meilleure manière possible. Ouais. Genre, il voit qu'il y a un enfant. Et il lui dit, et en fait après il lui fait des rappels, je crois qu'il fait passer des levels de blagues ou qu'il avance dans l'histoire.
Ah oui, c'est vrai,
il fait non, ouais. 12 ans,
ouais, ouais.
9 ans, 16 ans.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est le meilleur truc. Une fois que t'as vu ça, tu peux plus les faire ces blagues parce qu'il a fait ça d'une trop bonne manière, tu vois, c'est terminé. Mais c'est, en fait, je pense qu'il est le plus agaçant dans tout ça, à chaque fois, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est le côté répétitif des choses. Parce que si, tu vois, on voyait un plateau tous les mois et t'en as un qui fait un truc, l'autre qui fait l'autre truc. Bah, tu dirais, bon, bah oui, c'est chiant, mais voilà. Après, t'oublies potentiellement.
Mais c'est vrai que.
Plusieurs fois par semaine, t'es là,
ouais.
Oh, les gars.
Ouais, bah après, c'est vrai qu'en vrai, nous, on a l'habitude de faire des comic shows du coup régulièrement.
Ouais.
Mais le public, pas forcément, tu vois. Mais tu vois, une blague. Je me suis détesté après avoir fait une blague en 2 secondes après, tu vois.
Ouais.
Genre, c'était la première fois que je présentais le castel, la première fois que je présente un plateau, tu vois.
Ouais.
J'étais là et je me dis, bon, on va faire de l'interaction. Je sais pas si je suis bon là-dessus, on va voir, tu vois. Je fais de l'interaction. Tu t'appelles comment, son prénom, et genre, j'ai dit ouais, bah ça deviendra la mode, mais vraiment. Et puis, genre, 2 secondes après, je fais, mais je suis une merde. Je suis une merde. Genre, tout le monde a fait celle-là, genre, plus jamais je ferai ça. C'était horrible, je me détestais après.
Ouais.
Vois, c'est horrible. C'est horrible.
Mais après, c'est des réflexes, je pense qu'il y a aussi ce truc de. Je pense c'est des vannes faciles qui nous seraient venues, tu vois, naturellement, de base. Mais comme elle devient naturellement pour tout le monde, bah du coup tout le monde l'a fait. Et après, du coup, tu deviens influencé de l'avoir entendu, du coup, ça devient encore plus facile de la sortir parce qu'elle devient presque juste normale.
Après, on va pas s'en vouloir de faire une blague qui a déjà été faite plusieurs fois.
Non.
Faut juste réfléchir et dire, bon, bah voilà, c'est... je la referai plus et puis c'est tout, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que. Maintenant, ça t'est déjà arrivé où. Je sais pas si tu présentes un peu des plateaux des fois.
J'en ai. Présenté une fois, mais je fais très peu MC, ça m'est très peu arrivé. Et je pense que je vais devoir le faire parce que j'ai envie de monter un truc à Marseille ou à Aix. J'en réfléchis encore, je verrai sur le moment. Mais et là, je vais devoir le faire, mais je suis pas du tout à l'aise avec l'idée.
Ok, bah il y a peut-être quand même des moments, genre tu sais, une blague qui t'arrive en impro et que tu gardes après. Ou tu dis, tiens, si une impro comme ça m'arrive, je l'aurai, c'était peut-être déjà arrivé.
En interaction.
Ouais, en interaction, en plus.
Non, parce qu'après de l'impro sur scène où j'ai gardé les blagues à la fin, ouais, ça m'est déjà arrivé. Notamment avec mon sketch sur les chiens, tu vois. Alors, à force de me libérer du texte, bah, du coup, je faisais de l'impro aussi sur scène, ça pouvait arriver. Et j'avais trouvé des blagues que les gens kiffaient comme ça. Ils m'avaient dit, celle-là, faut que tu la gardes absolument et tout machin. Et du coup, je les avais gardées. Après, en interaction, non. Non, non. Parce que j'en fais quasiment pas, en fait. Ouais. Moi, je suis très peu là-dedans. Parce que j'ai très peu de... Ben, je pense juste que je suis pas bon là-dedans, tu vois. Et en fait, de base, ça m'attire pas. Je pense que je suis pas bon là-dedans. Du coup, ça me donne même pas envie d'essayer et de m'améliorer, tu vois. Mmh. Juste, bah non, je vais éviter de le faire, tu vois. Après, en effet, bah, si je dois faire MC, ça viendra, tu vois, ou je discuterai avec les gens, mais... Ouais, je sais pas. Après, le taf d'MC, il y a tellement de manières différentes de le faire, tu vois. Je pense que si je le faisais, il y aurait peu de blagues. Et ce serait juste essayer de créer du conditionnement, tu vois. Plus pour... que les gens sachent ce qu'ils sont venus voir, comment il faut être, tu vois, que ce soit dans une bonne vibe, un bon mood, plus ça que commencer à faire des blagues, tu vois. Mmh. Moi, ça m'est déjà arrivé, et pour le coup, je me dis, ah, j'ai pas trop envie de faire ça. J'étais au Comedy Café Pigalle, et il y a un gars, on lui dit, ah, vas-y, fais la chauffe, tu vois. Alors, il fait, ok, je vais faire la chauffe. Et en fait, sa chauffe, c'était un passage, quoi. Et du coup, ben, c'était bizarre, tu vois, il y a ce truc de... À la fois, j'essaie de dire aux gens, eh, ça va, machin, bienvenue, tout ça. En même temps, il part sur des blagues, mais c'était pas genre juste 2-3 blagues comme ça, ou vite fait une pour se présenter éventuellement, tu vois. C'était vraiment le gars, il a limite fait un passage, tu vois, de 3 minutes. Et après, en disant, eh, vous êtes prêts à accueillir le premier humoriste ? Et t'es là, bah, au final, c'était toi le premier humoriste, tu vois. Mmh. Et en plus, ce qu'il avait fait, c'était pas bien, donc du coup, ça avait plombé les gens après qu'il les ait mis dans un bon mood, tu vois. Vraiment, ça avait fait descendre le truc. Et ça, pour le coup, j'avais vraiment détesté ce truc-là, quoi. Et donc je pense que si moi je devais le faire, je serais plus dans un truc de juste on crée une bonne ambiance, je vous présente le plateau, qu'est-ce que c'est si vous connaissez pas le stand-up, bienvenue tout ça, et ensuite ok, on passe à l'humoriste qui là va vous raconter vraiment des blagues, tu vois. Mmh. Et après moi potentiellement j'aimerais raconter des blagues aussi, mais je pense que ce serait plus comme ça, tu vois.
Ok, d'accord.
Je pense que je me sentirais plus à l'aise à faire ça.
Ok.
Ouais, c'est pensé à Yacine Bellous qui racontait ça, et je me dis putain, j'aurais tellement pu faire la même chose. Où il disait que les premières fois où il faisait MC et tout, des fois il posait des questions genre qui n'avaient aucun sens, tu sais, genre, mais quel est votre plat préféré en parlant au public, tu vois, genre, tu sais, au lieu d'être d'où tu viens, comment tu m'appelles, il faisait quel est votre plat préféré à base de mouton, tu vois, des choses comme ça. Et que les gens, genre, mais qu'est-ce que tu dis. Moi, je trouve ça incroyable, et je trouve ça trop drôle, et ça change, tu vois, mais les gens. Les gens sont pas forcément réactifs à ça.
Bah c'est le gros problème de Yacine Bellous, hein. Enfin le gros problème. C'est pas Yacine Bellous, le problème c'est le public, en vrai, parce que c'est un génie, hein, mais incompris en vrai.
Non bah en fait c'est juste que l'absurde c'est pas forcément le truc le plus répandu ou le plus connu. Et parce qu'en fait les gens ils connaissent pas les styles globalement. C'est un truc de fou, hein. Mais c'était Morgane Cadignan qui en parlait dans un podcast et tout. Et c'est trop marrant parce que ce qu'elle dit, c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir à la soirée là. Mm-hmm. C'est qu'elle dit par exemple que les gens ils connaissent que l'humour noir comme style et un peu l'absurde parce qu'on connaît le terme, tu vois, globalement, mais en vrai ils savent pas vraiment à quoi ça correspond, juste ils connaissent le terme. Et hier en fait, c'est exactement ça qui s'est passé. Il y a un mec. J'en ai même Marie qui me parle, elle était avec un gars, et le mec du coup il fait « Ah salut », il se présente et tout machin, « Comment t'appelles ?» tout, voilà. Il fait « Du coup t'es humoriste aussi ?» Je fais « Ouais », il fait « Du coup tu fais quoi ?» C'est-à-dire, il fait « Bah, tu fais quoi alors, de l'humour noir et tout ?» Et du coup ma Marie lui fait « C'est quoi ton truc avec l'humour noir ? Tu veux que tout le monde fasse de l'humour noir ?» Et en fait il dit « Non, je suis fan de Jérémy Ferrari. » Au fond, ah ok, on comprend mieux. Mm-hmm. Mais le premier truc qu'il m'a demandé c'est « Humour noir », tu vois, forcément. C'est le seul truc qui vient dans la tête des gens. Mais ils connaissent pas vraiment les styles et ils se posent pas plus de questions que ça, tu vois. Et je pense qu'on a aussi trop habitué le public, globalement, à leur faire penser que l'humour, c'est forcément l'humour noir. Dans le sens où le bon humour, parce que c'est censé être dur de faire l'humour noir, ou intelligent. Ou alors le truc un peu plus nul, mais qui peut être aussi le cas,
c'est choquer ou toucher à des tabous, tu vois, potentiellement grâce à l'humour noir. Et du coup, c'est le truc qui va plus marquer les gens parce qu'il y a un truc un peu qui te. Peut-être qui est lié au. Putain, pas à la raison, mais à la. T'as la raison et.
Alors là.
L'inverse.
Putain, mais. Là, j'ai pas le mot.
Et tu vois qu'elle a plus touché à un truc genre primaire, réaction, et les sensations, tu vois, plus que la raison, tu vois, peut-être avec l'humour noir. Et du coup, les gens, ils sont genre, ah, c'est cool, c'est intéressant, le gars, il m'a choqué, tu vois, ou ah, le gars, il a parlé d'un truc interdit, ah, tu vois, genre, il y a un peu un truc qui peut être excitant là-dedans, donc je pense que ça les marque plus, mais leur connaissance va pas plus loin, tu vois.
Mais en plus, Jamie Ferrari, il fait plus trop d'humour noir déjà maintenant, je trouve.
Moi je sais même plus ce qu'il fait, tu vois, genre je connais plus.
Moi je moi j'aime beaucoup Jérémy Ferrari, mais j'aime plus Jérémy Ferrari pour sa façon de travailler, sur le fait qu'il se renseigne énormément et tout, il passe à l'arrache, que pour c'est de la question très drôle, hein. Mais genre moi je regarde Préféré Fréfé, je fais waouh, le gars il a bossé, tu vois. Je suis plus en mode comme ça, plutôt comme en mode waouh.
Ouais, c'est trop drôle, aussi sur lui, ouais. J'aimerais bien voir son nouveau spectacle et tout, tout ce qu'il fait, c'est dingue. Bon, j'en ai vu qu'un de lui, et c'était il y a longtemps, là, c'était où il parlait de religion, tu sais, il venait avec toutes les notes dans la Bible et tout. Mais ouais, du coup, le gars nous disait ça, mais après, voilà, il était très axé, humour noir, et c'est un peu le truc qu'on entend tout le temps, tu vois. Et en vrai, moi, de ce que je me rends compte avec l'humour noir, parce que j'ai vu un autre gars sur scène il n'y a pas très très longtemps et tout, et ça m'a vraiment fait poser la question de ça, c'est l'humour noir, ça me pose problème parce que j'ai l'impression. Déjà qu'en vrai, dans l'humour noir, les gens ils mélangent tout. Et que je pense que c'est un des trucs les plus durs à faire de dire quelque chose de dark, mais pour vraiment te faire réfléchir. Tu vois, genre vraiment créer ce sentiment de ah putain, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Ok, là il m'a choqué, mais en vrai, putain, il a tellement raison sur ce truc là. Et j'ai souvent l'impression que les gens utilisent ça juste pour faire des blagues trash sur des sujets, tu vois, et qu'à la fin t'es là genre mais y a pas de message derrière.
Ça c'est un truc qui me saoule un peu, j'avoue, le truc en fait où il y a des gens qui disent des trucs horribles tout le temps, ils font que des trucs horribles, et il y a pas de fond du tout.
Non, il y a pas rien
de fond. J'ai vu un humoriste tu vois, genre, il parle où il faisait des blagues très trash, mais des blagues de comptoir,
genre
vraiment plein de blagues comme ça. Et en fait derrière, juste pour que les gens se fassent ils confondent le rire et le choqué, tu vois, c'est là, je fais waouh, c'est pas ouf quoi, genre
non, juste t'as un oncle gênant de mariage,
c'est exactement ça. Mais tu sais, moi on m'a dit que je faisais du monde, alors genre par exemple t'as déjà vu peut-être mon passage sur le porno nazi.
Je pense, parce que le thème me parle, mais j'ai oublié.
En fait, juste, je parle du fait que je suis tombé sur un porno, et en fait, à un moment donné, la fille retire son t-shirt, et elle a un tatouage avec une croix gammée, tu vois.
Oh, waouh.
Et j'étais très choqué et tout, et après, je fais un truc à la fin où je dis qu'est-ce qui m'arriverait si ça m'arrive dans la vraie vie, je rencontre une fille en soirée, tout ça. Et on m'a dit, ah, tu fais un peu du monde noir. Parce que, juste parce que j'ai dit le mot nazi, tu vois. Alors que c'est pas du tout ça, je parle de cul. Je me pose la question si ça m'arrive et tout, mais c'est pas du tout du monde noir. Mais c'est vrai que je pense que les gens ils n'ont pas forcément les codes de ce que c'est.
Non, ils comprennent pas forcément. Et parce que c'est hyper dur à faire. Après, tu peux très bien choquer évidemment et parler de cul, mais et dire des choses sombres pour mentionner des choses. Mais tu vois, par exemple, si on devait parler de cul et de porno, imaginons, parce que là t'as mentionné ça, mais par exemple, le fait que. Tu pourrais faire des blagues énormes, je pense, grâce à l'humour noir, pour parler du fait que, par exemple, dès qu'il se passe un conflit horrible ou quoi, machin, et ben, l'endroit où se trouve le conflit, ben, ça devient les tags les plus recherchés sur les sites de porno, tu vois. C'est horrible comme concept. Ouais. Parce que t'es vraiment dans une fétichisation incroyable. Mais je pense que là, tu peux, justement, parler de porno, choquer un peu les gens, et pour démontrer quelque chose qui est horrible et qui est plus loin, tu vois,
chercher. Ouais,
et là, c'est l'humour noir pour de vrai, tu vois. C'est parler de quelque chose d'horrible, en faisant des blagues horribles, mais qui démontre quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, important, et intellectuellement, qui te fait réfléchir. Et c'est pas juste dire eh, les pédophiles, tu vois, genre, bah, tu nous apprends quoi là, tu vois, alors rien, t'as juste fait des blagues sur des bonbons et un camion, génial, cool. Tu vois, on va où avec
ouais.
Alors voilà, on s'en fiche. C'est pas intéressant, et là au final, c'est pas de l'humour noir, c'est juste du trash, tu vois, et c'est tout.
Ouais,
et c'est pas intéressant.
Moi, le trash, je trouve pas ça intéressant.
Non.
Je me dis qu'en vrai, je trouve ça facile à faire en fait. Genre, t'es là, tu dis, bah, tu dis un truc horrible, les gens sont choqués,
ouais.
Et puis voilà, c'est tout, c'est la fin.
Ouais, c'est tout. C'est dommage. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a un peu d'éducation à faire avec le public, évidemment, et surtout leur proposer plein de choses, des choses différentes pour qu'ils se voient, ok, ça aussi c'est de l'humour, et ok, ça me plaît, c'est intéressant, j'aime bien, ça me correspond plus et tout, et c'est chambé.
Après, je dis que c'est facile à faire le trash, mais il n'y a pas longtemps, il faut que je te raconte. J'ai fait du trash sans le vouloir.
Okay.
En fait, j'ai mis le mauvais mot. Et t'as peut-être entendu parler, mais genre. J'étais sur scène et je voulais faire un passage sur en fait la continuité de mon truc sur la contraception. Je parle par exemple que il y a des trucs qu'il faut pas dire tout aux hommes, tu vois. Genre par exemple j'avais appris récemment que seulement 1% des viols étaient condamnés, tu vois. Et moi j'ai dit seulement 1% des viols sont condamnables.
C'est horrible.
Et techniquement, ça peut faire du trash, tu vois.
Ouais.
Mais genre, là, personne n'a rigolé.
Ouais.
Je regarde, et en fait, je fais quoi, 15 secondes, je continue. Et après, je fais, il s'est dit condamnable. Et il y a des gens qui me regardent, qui font, oui. Je fais, non, je vais condamné. C'était horrible, horrible. Je pense que c'était l'un des pires moments sur scène où j'étais pas là.
Bonjour, je suis quelqu'un de bien, je voulais pas dire ça.
J'étais là, mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire.
Oh là là.
Je te jure.
Ah ouais, dur.
Ah, je me suis dit, heureusement que. Heureusement, des trucs en direct. Ah ouais. On m'a dit, ça, les trucs en direct, de toute façon, c'est cadré, tout ça, ça t'arrivera jamais, c'est sûr. Mais t'es en direct, tu fais ça, c'est fini pour toi. Les gens, ils coupent plus ce moment-là, et t'es mort.
Ouais, c'est terminé.
Vincent a dit que 1% des belles étaient condamnables. Ah, ça m'avait choqué ce moment-là.
Voilà. Surtout que les gens, ils sont pas gentils, ils vont pas être là, genre, excusez-moi, vous êtes sûr que vous vouliez dire ça?
C'est sûr.
Que vous aviez l'air gentil, donc Ah, vous êtes trompé, d'accord, c'est ce qui me semble.
C'est cool parce qu'avant je parle de contraception masculine, tu vois, vraiment un truc vraiment engagé et tout, et je suis là. Je dis, ouais, 1% des vaches sont condamnés quand même, c'est fou.
Que le reste, c'est ok. En vrai, le gars, il est hyper déconstruit tout le long, et d'un coup, brah, il vrille complètement. Il change de personnalité totalement, tu sais, genre. Toutes les 10 minutes, je change de personnalité, je deviens un connard. Pardon, excusez-moi, hein, ça dure pas longtemps, mais ça arrive.
Ça fait tellement drôle que j'ai un spectacle d'une heure. Tu dis un truc là, pardon, c'est moi, je reviens.
Ou tu sais, tu dis un truc horrible et tu continues comme si c'était rien passé. Et que les gens sont en plein doute tout le long. Hein.
J'ai pas compris, il parlait quand même d'une game de 16 ans là. Je te jure. Bon, je vais finir sur les deux dernières questions.
Vas-y.
Du podcast. La première, c'est est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle avec Lucas Drapier?
Ah ben j'espère. Je pense. En tout cas, je vais tout faire pour hein, qu'il soit drôle aussi avec moi, parce que j'ai envie de partager des choses aux gens et j'ai envie de les faire rire et de faire passer des bons moments et d'avoir. Même si c'est pas notre but à tous, mais aussi d'avoir un impact positif sur. La vision des gens vis-à-vis de certaines choses, tu vois. Notamment quand j'ai des blagues sur l'hémophilie, qui du coup la maladie que j'ai depuis que je suis né, vu que c'est héréditaire et génétique. Mais tu vois, alors c'est un détail, mais je trouve ça important d'en parler, du coup je vais aussi en parler avec toi, tu vois. Mais tu vois, par exemple, moi sur en story, des fois je fais de la vulgarisation, tu vois, vis-à-vis de la maladie et tout.
Donc, c'est-à-dire
la vulgarisation, c'est quand tu parles d'un sujet et tu le rends abordable pour le plus grand public. Tu vois, t'as les chaînes YouTube qui font de la vulgarisation scientifique, tu vois. C'est ce principe-là de dire, bah les gars, vous trouvez que c'est hyper relou et compliqué la relativité, bah je vais vous l'apprendre de manière facile, tu vois. Bah des fois, moi je fais ça avec ma maladie, tu vois, pour en parler aux gens. Des fois, c'est juste parce que ça me fait du bien. Des fois, c'est parce que je me dis, tiens, c'est cool de dire soit aux gens qui sont proches de moi, qui connaissent ma vie, un peu où j'en suis, soit je me dis, bah c'est cool aussi d'apprendre des choses aux autres, tu vois. Donc j'avais fait ça il n'y a pas très longtemps vis-à-vis de mon nouveau médicament et tout, donc je fais des blagues dessus. Et j'avais vraiment fait un vrai truc en story, tu vois, où je racontais ça. Et pour le coup, j'avais tagué l'association française des hémophiles. Bon, dire, bon, bah, s'ils veulent, ils verront. Et s'ils veulent repartager, pourront le faire. Ils m'avaient contacté en disant, est-ce que t'es ok pour qu'on repartage les stories? Je suis ouais, go, tu vois. Mmh.
Donc ils avaient c'est un peu. Ils t'ai demandé déjà.
Ouais, alors, j'avais fait exprès, tu vois, mais ils sont très. Déjà, ils m'avaient demandé, et après, ça a mis du temps. Et du coup, j'ai dû leur. Les aider à retrouver les stories parce qu'en fait, je pense qu'ils auraient dû demander en haut lieu, tu vois. Genre, s'ils avaient le droit de mettre des publications où je marquais genre putain ou des choses comme ça dedans, même si c'était à titre joyeux, le putain, genre c'est putain de bien, tu vois, mais il fallait quand même demander, ça reste un gros mot, tu vois. Donc, pour la com, il fallait qu'ils voient ça. Mais ça avait été accepté et tout, je pense. Et du coup, ils sont venus me contacter, on m'a redemandé et ils ont tout republié. Et à partir de là, j'ai plein de parents hémophiles ou d'hémophiles qui sont venus me suivre, tu vois, sur Instagram. Et dont un qui m'avait dit un truc genre hyper touchant, hyper cool, mais il m'a dit merci beaucoup de nous raconter de cette manière là, moi j'ai plus de 40 ans et j'ai toujours et j'avais toujours peur de parler de ma maladie, etc, alors que tout va bien dans ma vie, machin, et en plus ça j'ai chopé le sida à cause du sang contaminé, enfin bref, toutes ces histoires là à la con, mais genre un truc très gentil et très beau en disant je viendrai te voir sur scène, j'ai hâte de voir tes sketchs sur ça, etc. Merci beaucoup pour tout ça et tout. Et ça m'a plus touché que plein d'autres trucs où les gens me disaient ah, tes blagues sont drôles ou ta sketch est hyper intéressant. Parce que je pense que, tu sais, de la manière que quand je vois que t'as des femmes qui vont faire des sketchs et des blagues hyper cool pour parler d'elles, tu vois, et qui les sublime et qui les rend. Tout aussi humaine que ce que et parfois médiocre aussi, hein, que ce que les hommes ont pu faire vis-à-vis d'eux-mêmes, tu vois, mais ce qu'on n'a pas pour les femmes, quand elles le font, je pense que ça a du bien pour toutes les femmes qui les regardent. Absolument. Et pareil pour les gays qui vont réussir à faire ça pour leur communauté et dire voilà, bah, regardez, je suis un homme gay, voilà comment je vais en parler. Pareil pour les noirs et tout qui arrivent à rendre tout ça extrêmement cool et parfois très souvent éducatif aussi, tu vois, pour le reste de la population qui vit pas la même chose. Et du coup, je trouve ça hyper cool de faire ça aussi pour eux, tu vois. Et du coup, je me dis que si je peux faire des blagues sur ça en parlant de moi, ça peut faire du bien à eux, ça peut aussi faire du bien à des gens qui ont des maladies chroniques aussi, tu vois, et qui peuvent se retrouver dans le concept de maladie invisible, de maladie chronique, de maladie génétique, etc. Et je pense que, tout autant que je considère que l'humour est une arme extrêmement dangereuse, je pense que c'est aussi un énorme vecteur, tu vois, d'éducation et de communication. Et du coup, je pense que si je peux... Ouais, je serais hyper fier, tu vois, si je peux faire du bien à des gens, tu vois, via ça. Via mes sketchs et tout, en plus. Donc ça peut être drôle et éducatif et faire du bien, ce serait cool.
Juste une question. Tu disais que l'humour peut être une arme extrêmement dangereuse. Par rapport à quoi? Je suis très curieux de savoir...
Le fait de que ce soit un vecteur de clichés, de stéréotypes permanents, tu vois. Et on le voit malheureusement très très souvent, mais tu sais, c'est comme par exemple dire de la merde, ça passe beaucoup plus facilement que de dire la vérité, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on voit parce que c'est très simple. Dire un mytho, ça passe très vite. La vérité, elle est très complexe. Et souvent, les gens, ils ont la flemme d'écouter la vérité parce qu'elle est complexe et il faut qu'ils soient dans un bon mood, etc., etc. Et l'humour, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec de l'humour, tu peux faire passer les plus grosses dingueries. Si les gens sont pas trop renseignés, sont pas trop éduqués, se posent pas trop les questions, sont un peu aussi éventuellement enfermés dans une bulle avec un certain type de schéma de pensée, etc., ben, tu peux leur dire ben, c'est n'importe quoi, ils vont les prendre, tu vois. Et comme tu les fais rire en plus, ça leur fait du bien, donc du coup ils prennent une info qui va dans leur sens, même si elle est horrible, et qui les fait rire, donc du coup ça fait un combo, je pense, qui rentre encore plus dans le crâne. Mais c'est ça que tu vois, je trouve ça extrêmement dangereux, le fait de continuer à avoir des gens qui vont se permettre, par exemple, de faire des sketchs où ils vont faire des accents, tu vois, où on continue à rire de quelqu'un qui fait un accent marocain, genre, et t'as genre, les gars, c'est pas drôle, c'est un accent, on peut arrêter de se moquer des gens qui ont un accent, ça n'a aucun sens, tu vois.
Souvent, ce qui est drôle, c'est même pas des blagues, c'est vraiment l'accent.
Non, c'est l'accent, et du coup, en fait, c'est dur d'éduquer une population, tu vois. C'est très très compliqué et on voit que c'est vrai que les gens, tu vois, toutes les positions qu'on peut avoir en termes de justice sociale, en train d'évolution de la société, de comment on se comporte vis-à-vis de différents types de personnes, des communautés, des minorités, tout ce que tu veux, c'est long, tu vois, dans le temps. Ça prend plusieurs années pour arriver à un certain truc, tu vois. Et parfois, on voit que les choses continuent à être remises en question en permanence, qu'il faut revenir, tu vois, et qu'encore plus éduquer. On sait que c'est compliqué. Et du coup, avoir des gens qui disent juste parce que je vais choper une blague facile, parce que les gens sont encore ancrés dans, dans ces choses-là dont ils ont parfois peut-être honte au quotidien, tu vois, et peut-être que dans la vie de tous les jours, les gens ils vont pas faire des blagues racistes ou quoi, mais sur scène, ils vont se dire, ah ben si la personne dit ça, ça légitime le fait qu'on puisse rire de ça, tu vois. En fait, pour moi, c'est autant dangereux qu'un homme politique qui va dire un truc, on se dit, bah si lui le dit, c'est un homme politique, il est écouté, il est représenté, il a un rôle important, bah c'est-à-dire que c'est ok, tu vois, de dire ça. Mais avec l'humour, c'est pareil. Si tu le dis en faisant une blague, et que les gens rigolent, ça valide le propos. Et du coup, je trouve ça hyper important pour nous, en tant que humoristes, en tant que personnes qui transmettons des choses, qu'on le veuille ou non, on transmet des choses, tu vois.
Absolument.
Que ce soit des blagues ou des propos intéressants, bah de se dire, ok, quelles sont mes valeurs, et comment j'ai envie de transmettre ces choses-là, et de pas tomber dans des choses faciles juste pour avoir un rire, tu vois. Mais au contraire, être dans ce truc inverse de, ben, bon, moi je fais un humour où j'attaque jamais personne, et tu vois, quand je fais mon sketch sur le bouddhisme, je me moque pas des bouddhistes, je parle des autres religions, mais sans jamais leur manquer de respect, parce que c'est pas le but, et parce que je trouve pas ça drôle de faire des blagues sur, sur les juifs ou les musulmans, ou les chrétiens, machin. Non, je me moque de système capitaliste qui utilise une certaine religion pour en faire un truc de développement personnel et un truc de décoration, tu vois, c'est ça dont je parle. Et tu vois, quand je dis que j'ai acheté une cuvette de toilette avec la tête de Bouddha, c'est pas pour dire « Ah, je pisse sur Bouddha, c'est vachement drôle, prends ça dans ta gueule Bouddha, tu vois, et du coup insulter tous les bouddhistes qui pourraient écouter ça. » C'est pas ça l'idée, c'est se dire « Potentiellement, ça existe. » Et c'est le truc le plus insultant que l'on pourrait faire pour eux, tu vois. Et c'est de ça dont je parle, tu me moques pas d'eux, tu vois. Et je trouve ça important de se dire « Ok, quelles sont mes valeurs comment j'ai envie d'en parler et comment je peux traduire ces valeurs-là aux gens, tu vois. » Je pense que c'est hyper important. Et du coup, je pense qu'à la fois, c'est hyper dangereux parce que c'est facile de faire des blagues mauvaises et d'influer des mauvaises pensées. Mais de la même manière, je pense que c'est aussi un très bon vecteur d'éducation et tout ça, quoi.
Absolument, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi.
En gros, voilà.
Totalement d'accord avec toi. Et la dernière question.
Yes.
Est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle, en général?
Globalement?
Ouais.
L'avenir fait peur, hein, en ce moment. C'est pas mal, hein. Mais je pense que l'avenir sera drôle quoi qu'il arrive, parce que souvent on rit de choses qui sont dramatiques, parce que ça nous fait du bien, et je pense qu'on trouvera forcément le moyen de rire de peu importe ce qui arrive, tu vois. Parce que soit ça nous permettra justement de dénoncer des choses qui pourraient nous permettre de nous, du coup, élever intellectuellement, et potentiellement nous rebeller pour éventuellement aider à faire avancer les choses, soit bah, pour faire passer de la pilule, tu vois, et faire en sorte que quelque chose se passe mieux. C'est ça, un livre. Par exemple, pour moi, c'est totalement lié, mais du coup, j'en reviens à ça, mais le fait de rire de mes problèmes de santé, tu vois, que ce soit la dépression, que ce soit l'hémophilie et tout, c'est pour aussi faire en sorte que ce soit plus facile à vivre, tu vois. Et je pense que si plus tard, à cause des problèmes de réchauffement climatique, etc., on fait des blagues sur la situation actuelle, ça nous permettra de décompresser.
Ouais.
Tu vois. Et du coup, je pense que ce sera drôle quoi qu'il arrive.
Ok. Ok, c'est très bien. J'aime bien parce que tout le monde a des réponses différentes. Et souvent, là, ça va, c'est un peu présent ce que tu disais sur la question de est-ce que tu seras drôle, est-ce que tu seras drôle avec le quatre à pied. C'est que, en général, les gens, ils disent ce sera drôle avec moi, tu vois. Mais en général, ça va être compliqué. Hein.
D'accord.
Va se sentir, ça va être compliqué. Et je pense que justement, c'est un peu. Pas en mode, ça fait penser que je vais dire ça, mais un peu en mode super-héros, mais justement, heureusement qu'on est là pour, du coup, rendre les choses au mieux drôles chacun. Nous, on sera drôles, même si l'avenir...
On ne l'est pas forcément. Pas.
Voilà, on va faire en sorte. Donc,
on est là pour bah, c'est bizarre à dire que ça, je veux dire, on est un peu des bouffons, mais on a ce côté un peu de « mec, t'as passé une journée de merde ?» Bah écoute, je vais te faire oublier ça. Pendant... Et c'est pour ça que genre, j'adore l'entertainment et que j'ai essayé... plus jeune d'aller vers le ciné ou d'autres trucs parce que j'aimais ce côté les gens ils ont eu telle vie, tel truc, tel machin, on sait pas ce qui se passe, quelqu'un il s'est fait virer au cinéma, il va être à côté de quelqu'un peut-être qui a perdu un être cher, à côté de quelqu'un qui s'est fait sa meuf l'a quitté, l'autre il a perdu son chien, je sais pas, mais tous ensemble ils vont se mettre dans une bulle où ils vont oublier ça et passer un moment qui va les détendre, les alléger et tout ça, et c'est encore mieux si ça touche aussi le sujet qu'ils ont vécu eux-mêmes,
parce qu'il y a un côté catharsis aussi avec l'humour. Zoé, ça va jamais s'arrêter, hein.
Mais c'est pas grave, prends
le temps. Il y a un côté catharsis aussi avec l'humour, de, bah, avec l'hémophilie, avec d'autres choses, que t'as des gens qui sont pas forcément capables de rire d'eux-mêmes, même si, même s'ils en auraient besoin, même s'ils en auraient envie, ils ont pas cette capacité parfois, ils ont pas forcément le recul nécessaire. Et nous, avec les blagues que l'on fait, on leur apporte le recul sur une situation. Et ça peut leur permettre de dire, ah oh, putain, ok, le temps que eux ils prennent pas pour faire ça, nous on leur donne, et du coup ça leur fait du bien, tu vois. Et c'est comme quand on voit un film, une série, ce qu'on veut, il y a des scènes où on se dit putain, ça fait du bien, tu vois, ça m'a permis de rire, ça m'a permis de pleurer, d'accepter des trucs. Et je pense que quand tu fais ça, tu fais des blagues sur une situation de quelqu'un, bah ça peut te faire du bien à toi. Je vais parler de lui vite fait, parce qu'en général j'en parle pas parce que c'est quand même un sombre connard, mais je me souviens que par exemple. Bon, moi j'ai deux ou trois, je sais plus, mais deux grands-parents qui sont décédés du cancer, tu vois. À l'époque, ça me touchait beaucoup. J'étais tombé sur le sketch sur le cancer de Dieudonné à l'époque. Et en fait, ça m'avait fait un bien fou, tu vois. Parce que je crois qu'il en parlait trop bien. Et c'est, en fait, le fait de rire de ça avec quelqu'un qui justement a bien fait le boulot, et ben ça me soulageait énormément, tu vois. Et c'est le côté catharsis qui est très très agréable avec l'art, tu vois. Et avec l'humour, on peut le faire évidemment à foison. Et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Donc comme je disais, bah, plus tard, peut-être que l'avenir sera pas forcément drôle. Mais on sera là pour alléger le poids, tu vois, auprès des gens.
Mais tu vois, ça me fait penser à je sais pas si tu écoutes Kalash Criminel.
Très peu.
C'est un
je vois le rappeur avec une cagoule.
Avec une cagoule qui est... comment on appelle ça ?
Albinos.
Albinos, exactement. Yes. Il a une phrase où il dit « Je suis albinos parce que je suis né pour briller. » Tu vois, et en fait il disait qu'il y a plein de gens, de personnes albinos qui sont venus me voir et qui disent ouais j'utilise cette phrase aussi et tout,
c'est trop bien.
Et je pense que ouais, c'est le même principe là, tu vois, genre tu peux aider les gens, parce qu'en vrai c'est pour ça qu'il y a plein de stand-up et que c'est cool qu'il y en ait plein, parce que chacun a une vie différente et quelqu'un peut se reconnaître là-dedans.
Totalement.
Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi,
et ça nous fait du bien, tu vois.
Exactement, à nous et aux autres.
Donc, totalement,
c'est grave cool, ça fait du bien à tout le monde. Bah écoute, je te remercie.
Bah merci à toi.
C'est la fin de cet épisode. Voilà, on se retrouve tout de suite, parce que j'ai sorti deux épisodes d'un coup, avec l'épisode de Samir qui arrive, qui est juste le prochain. Si vous avez aimé Lucas Drapier, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Voilà, moi sur Instagram c'est Vincent-Barat. J'ai essayé de faire encore plus d'épisodes. Après Samir, j'espère avoir PV. Voilà, merci à vous.